cette semaine dans le service après-vente de la F1.
Barrichello envisage de revenir chez Ferrari.
La Formule 1 se tourne vers l'Argentine et le Qatar.
Et Steph Corr vient sa revanche.
L'avenir de Sakir et d'Austin s'assombrit.
Ben étale de la confiture.
Lotus quitte Lotus, mais reste Lotus.
Monisha Kaltenborn entre dans l'histoire.
Et le SAV se passe avec les auditrices.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du MAG du SAV. Nous allons revenir sur toute l'actu de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, bonsoir Dino.
Bonsoir Cindy.
Dino, nous avons nos chers collègues comme d'habitude. Et qui avons-nous ce soir?
Voilà. Alors nous avons un duo inédit que nous avons jamais eu, de toute façon c'est pas difficile, en ce moment c'est que des duos inédits, on verra au mois d'août, ils seront plus inédits peut-être, puisque nous avons à notre gauche, il pèse 75 kilos, il a un fort accent belge, et il a les cheveux à la Tintin, c'est Ben.
Bonjour, bonsoir.
Et à notre droite, il a 75 kilos, il a un fort accent français, et il a une mèche pas à la Tintin, c'est Steph Corr.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir, messieurs.
Passez une bonne semaine, même si c'était repos hein, ce week-end, hein, question sport autour. Il y avait vraiment que dalle.
Oui, mais il y avait de la moto ce week-end.
Ouais, c'est voilà, vrai, ouais. C'était le retour de la moto.
Devant des tribunes presque vides.
Waouh.
Il y avait des tribunes. En même temps, au Qatar, il n'y en a qu'une de tribune. J'ai bien regardé, hein, il n'y en a qu'une. Et ils veulent accueillir la F1.
Oui, non, mais ils ont dit qu'il faudrait rajouter des tribunes.
Bon, pour les tribunes, ils peuvent prendre des démontables, hein. Juste pour la première année, la deuxième, voilà. Il n'y aura plus personne.
Oh, bah, ouais, il n'y aura plus personne.
Non, il est sympa, le Losail.
Oui, mais il est vide.
Oui, mais il est vide parce que c'est le MotoGP.
On y reviendra. Pour commencer, déjà, ça va être le quiz, notre fameux quiz.
Et on doit rendre hommage.
Oui.
On doit leur dire qu'ils ont été seigneurs. Ils ont reconnu notre brio, notre... Enfin, voilà.
Mon brio.
Non, notre, c'est du... J'avais un peu mis sur la voix, quand même. Non, mais ça qu'on doit quand même remercier Fab et Gus Gus qui nous ont rendu 2 points.
Voilà.
On mène, je sais plus combien.
8 à 5.
8 à 5, voilà. Et qu'on est sur un score de 6-0 consécutif.
Ouais.
Mais ça ne va pas durer.
Messieurs, est-ce que vous voulez commencer? Est-ce que c'est nous qui commençons?
Bah, c'est eux qui ont perdu la dernière fois, Shinji. Hein.
C'est vrai.
Autant qu'ils s'habituent à commencer, tu vois.
Ouais, ben moi, je te laisse la main.
On va vous mettre de mauvaise humeur tout de suite, alors. Hein. C'est comme vous voulez. Vous êtes sûr?
Oui, bah oui.
Oui.
Alors, la question de cette semaine est un chiffre inutile. Et le chiffre en question, c'est 80.
Est-ce que ça a un rapport avec la facture que Red Bull a envoyée à Lotus, au cas où?
Non.
Non, d'accord. J'ai vu ça aujourd'hui, je me suis dit, ça, forcément, à un moment donné, on va y avoir le droit.
C'est un nombre de personnes?
Non.
C'est une statistique?
Oui.
80%?
Oui.
80% de quelque chose. Ça concerne un pilote ou une écurie?
Non.
Ça concerne un circuit?
Ça concerne un circuit.
Le circuit de Shanghai?
Oui.
La durée pleine charge?
Non.
La durée sur les freins?
Non.
Il y a 80% de chance de pluie?
Non.
80% de chance de beau temps?
Non plus.
80% des vainqueurs sont partis de la pole position?
Non.
80% des vainqueurs sont des McLaren?
Non plus.
80% des vainqueurs sont des Ferrari?
Non.
Est-ce que c'est un rapport à un résultat qui a été fait sur le circuit de Shanghai?
Non plus.
Est-ce que c'est un rapport avec le circuit de Shanghai?
C'est un rapport avec le circuit, oui.
D'accord. Ce que je voulais dire.
C'est quelque chose qui va arriver?
Non.
À 80% de chance?
Non.
Est-ce que c'est le taux de remplissage des tribunes?
Non.
Est-ce qu'on
le taux de vide des tribunes?
Non plus.
Est-ce qu'on se rapproche un peu?
Un petit peu.
Est-ce que...
Ça concerne les spectateurs?
Ça concerne les spectateurs, oui.
Ils sont 80% étrangers?
Ouais. Non.
Ils ne viennent pas de Shanghai?
Non plus.
Ils sont invités par le pouvoir?
80% chinois?
Non.
Ils sont pas 80% chinois? Ou tu le sais pas?
Ça, ils sont peut-être 80% chinois, mais ce n'est pas pour ça que je vous demande le... Vous êtes posé la question sur les 80.
C'est les réductions qu'ils font pour les billets?
Non plus.
C'est quelque chose qui concerne 80% des spectateurs?
Non.
Chaque spectateur est concerné à hauteur 80%?
Non, pas tous.
Les plus riches?
Mon avis, oui. On va dire que oui.
Ça concerne le paddock club?
Non. Pas le paddock club.
Attends, donc c'est un truc qui se passe...
Moins riche que ça.
D'accord.
Est-ce que ça a un rapport avec le... Comment dire? Je dirais le profil des spectateurs?
Non.
Alors attends, je suis un peu perdu là. Donc c'est 80%, ça concerne les spectateurs...
80% des spectateurs sont sur la ligne droite.
Non.
Est-ce que ça s'approche?
Disons qu'avec 80% spectateurs et ligne droite, vous êtes pas mal.
80% des déplacements ont lieu dans la ligne droite?
Non.
Est-ce qu'on se rapproche?
Là, tu refroidis.
Alors, 80% ligne droite, 80% spectateurs. 80% des caméras sont sur la ligne droite?
Non. Quand je parle de ligne droite, je parle de la ligne droite des stands. Hein.
Oui, oui.
Voilà. Ah, d'accord. Ah, d'accord.
Ouais, sûr.
Attends. C'est-à-dire que les spectateurs qui sont dans la ligne droite des stands, dans la grande tribune, là, ils sont 80% ouais. de quelque chose?
Non, ils sont pas 80% de quelque chose. Mais la statistique les concerne.
80% d'invités?
Non.
De clients Ferrari?
Non plus.
Est-ce qu'ils sont 80% de quelque chose?
Non.
Merde. Ils voient 80% du circuit?
Ouais.
Oui.
Sur
oui
le fil.
Oui.
Mais... Bravo.
Oui. Ah, on a vaincu, j'ai dit pas. Ouf. Je commence à paniquer parce que j'ai pas le chrono.
Pardon. Oui, c'est pareil, ouais.
Les spectateurs, ils voient 80% du circuit.
Ah, ouais, les spectateurs situés dans la grande tribune voient environ 80% du circuit.
Ils voient pas la meilleure, en fait.
Bah non, parce qu'ils voient pas le virage au bout de la longue ligne droite, là où il y a le plus de dépassement.
Oui. C'est vraiment plus...
Voilà. Donc si jamais nos auditeurs ont l'idée un peu folle de partir en last minute à Shanghai, ils doivent prendre un ticket dans la grande tribune.
Oui.
C'est une information d'utilité publique.
Ou dans la tribune d'avance.
Ah mais est-ce qu'il y a des tribunes avant? Parce que il y en a. Enfin, c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que il y en a parmi tous les spectateurs, il y en a beaucoup qui sont concentrés justement sur la ligne droite.
Mais je sais pas où sont situées toutes les tribunes du circuit de Shanghai.
Ouais.
Donc
Il y a les tribunes.
On a une
au grand final. Après il y a la grande tribune là au banking avant la grande ligne droite, mais elles sont fermées, ça là, elles servent de.
Oui bah oui. Voilà.
Ouais ouais, c'est celle ouais, juste avant la ligne droite, la grande ligne droite ouais. Mais c'est vrai qu'il y a jamais personne.
Oui.
C'est tout.
Ouais, c'était un chiffre inutile.
Bah non, il concernait la F1, qui n'était pas inutile.
Voilà. Oui, il concernait la F1 et il concernait le prochain Grand Prix. Donc voilà.
Donc ça nous fait 9 à 5.
Non, ça fait même 10 à 5, parce qu'on avait 8 à 5.
Mais là, ah oui, oui, non, oui. Oh, merci.
Je le répète, c'est 10 à 5.
Oui, oui, oui. C'est tout à l'heure qu'on va prendre un point.
Voilà.
Non, mais on sera gentil avec vous. On vous laissera du temps. 5 minutes.
Alors messieurs, dans ce cas-là, on va passer au podium de l'actu.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Alors messieurs, cette semaine, nous n'avons pas 3 actus. Nous n'avons pas 4 actus.
On en a 5
Oui, on en a 5.
On la vache, qu'est-ce qu'on va parler ce soir?
J'ai droit à un point pour avoir trouvé ça?
Non.
Non.
Ah, j'aurais essayé.
Il faut dire qu'il n'y a eu qu'une semaine, donc il y a eu moins d'actu cité dans, en global,
oui.
Mais on va dire qu'il y en a 2-3 qui ont... Il n'y a pas eu de grand chelem, non, mais qui ont...
Dont on s'en fout.
Ah non, justement, il y en a, voilà, il y en a 2-3 qui sont très concernés.
4 ou 5 voix, quoi.
Oui, facile. Et on va commencer par une nouvelle... J'ai presque envie de dire ubuesque, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est donc cette nouvelle qui nous est venue de Lotus, qui après s'être battue pour obtenir le droit de s'appeler Lotus et d'être sponsorisé par Lotus, nous avons donc appris qu'il ne serait donc plus sponsorisé par Lotus, tout en continuant à s'appeler Lotus.
Voilà.
Vous avez compris?
Ils ont inventé un troisième Lotus. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même Lotus, le constructeur, et le Team Lotus. Et maintenant, il y en a un troisième. C'est-à-dire qu'il y a toujours Lotus, le constructeur. Team Lotus, on ne sait pas où ils sont en ce moment. Et Lotus, F1 Team.
Apparemment, ils peuvent continuer à s'appeler Lotus jusqu'en 2017, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça.
Donc en gros, la seule différence, c'est que je crois que Proton, via Groupe Lotus, avait la possibilité d'acheter environ 50% de l'équipe, ce qui ne sera plus possible maintenant, puisqu'ils sont plus...
Voilà, ils avaient une option et ils ne l'ont pas levé.
Le truc, c'est que en fait, Proton n'est plus propriétaire. Enfin, déjà, Proton a changé de propriétaire. Il y a un autre propriétaire malaisien. C'est-à-dire que le gouvernement a vendu ses parts à un groupe d'investisseurs malaisiens.
Et d'ailleurs, Génie Capital était candidate à ce rachat.
Mais ils y sont toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupe, les nouveaux propriétaires de Proton ont déclaré en fin janvier que pour le moment, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire de Lotus Cars. mais que ils étudieraient la possibilité, etc. Et d'ailleurs, Gérard Lopez, le patron de Génie Capital et propriétaire de l'écurie de F1, a déclaré que il attendait de voir ce que voulaient faire les nouveaux propriétaires de Proton avec Lotus Cars pour se positionner, peut-être le racheter. Donc c'est-à-dire que peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être que Gérard Lopez et Génie Capital vont racheter Lotus, auquel cas on n'aura plus que deux Lotus.
Oui.
Non, au final, oui. Une fois que comment dire, le Team Lotus, ouais, ça reste juste sur du naming. C'est oui. Simplement le naming qui est mis en place pour le Team Lotus. Bon, après, si les résultats sont bons, comme ils commencent à l'être depuis le début de l'année, s'ils changent de nom, même sur la saison prochaine ou autre, ça changera pas grand-chose, quoi.
Mais... Ce qui fait que maintenant ils cherchent un sponsor titre. Donc en gros, enfin, avoir un deuxième sponsor titre.
Ben non, parce que voilà, enfin disons qu'ils ont le nom Lotus, donc c'est oui. Plus un sponsor titre, c'est le nom de l'équipe.
Oui.
C'est toute l'originalité aussi du partenariat, c'est que ils ont fait de leur équipe une vaste opération de naming. Le truc, c'est voilà, c'est que l'équipe, elle a le nom Lotus, ils peuvent pas le retirer, mais elle a le nom Lotus. C'est un peu le danger aussi quand on connaît les accords Concorde. C'est un peu le danger oui. d'avoir fait ce truc-là.
Faut le garder, non.
Voilà, qui te rend un peu prisonnier du nom pendant quelques années.
Oui.
Bah, c'est-à-dire que maintenant, ils font la pub pour Lotus sans être payés. C'est bien.
Voilà.
C'est ouais.
Donc franchement, moi, à terme, je me demande s'ils vont vraiment, parce que normalement, ils peuvent apparemment utiliser le nom jusqu'en 2017. Mmh. M'étonnerait qu'ils fassent de la pub en guillemets gratos pour Lotus jusqu'en 2017. Enfin,
après, ça dépend parce qu'il y a aussi des rumeurs qui circulent comme quoi Lotus avait des dettes, etc. et avait contracté des emprunts à la fois auprès de Renault et aussi auprès de Lotus. Donc, est-ce que par hasard, il n'y a pas ce côté on a des dettes, mais bon, on continue de garder votre nom et en échange, on considère que nos dettes elles sont réglées, par exemple.
Normalement, ils avaient une dette l'année dernière, ils ont un déficit de 21 millions d'euros. Mmh. Et comment dire, qui était justement l'engagement qu'ils avaient au sein du team Lotus. Mais je pense que justement le fait de pouvoir garder le naming ou autre, c'est sur un effacement de cette dette là, voilà. Qui va être pris en charge par Génie Capital. Et même ça m'étonnerait pas que Génie Capital vienne à devenir le nom de l'écurie d'ici justement la fin ouais. du partenariat, parce que c'est une marque assez forte. Tout le monde dans l'F1, même nous en tant que spectateurs, on commence à connaître le nom de Génie Capital. Il commence à s'imposer. Ça m'étonnerait pas qu'il bascule.
Je ouais, parce que c'est justement ce que disait Gérard Lopez, c'est que il dit Lotus c'est quand même un nom F1 et c'est un très bon nom de marque. Ouais. C'est aussi un gage pour les investisseurs. On voit, ils ont fait venir Microsoft, ils ont fait venir aussi, ils parlent Unilever. Donc ils disent voilà, ça rien que le nom Lotus, c'est un gage de d'expérience, etc. Même s'ils l'ont pas, c'est-à-dire que enfin c'est bête de penser que le nom fait quelque chose, parce que bon, on sait très bien que c'est une écurie qui a 20-25 ans d'expérience, ils ont été champions du monde, donc il y a pas de raison que tout d'un coup et on puisse pas comment dire mettre de l'argent sur eux ou les soutenir. Mais mine de rien, Lotus c'est comme un nom qui ronfle, c'est voilà, il y a une sorte de prestige qui est associé, et pour des marques ça peut être plus intéressant de s'associer au nom de Lotus qu'au nom de Genie, par exemple.
Bah, de toute façon, ouais. C'est eux qui ont signé les plus gros sponsors, les plus gros nouveaux sponsors par rapport à 2011.
Ouais. Tout à fait.
Mais en même temps, désormais, dans la génération où on est, c'est la chose qui va être et qui est primordiale, c'est quand même les résultats. Peu importe quasiment le nom, ça va être le résultat qui va faire que le sponsoring va oui. arriver aussitôt.
Oui, le résultat et le prestige aussi. Enfin,
ouais, il rentre en ligne de compte, mais je pense que beaucoup moins qu'auparavant.
Oui.
C'est comme Raikkonen. Enfin, le nom de Raikkonen, il apporte un truc en plus. Il attire des sponsors plus qu'un autre mec qui aurait le même palmarès. Enfin, voilà, qui aurait à peu près le même talent et le même niveau et qui ferait les mêmes résultats. Voilà, je pense qu'il y a le prestige du nom qui quand même apporte un plus.
Moi, je pense que quelqu'un qui aurait le même palmarès que Raikkonen aurait le même prestige auprès des annonceurs. Enfin, pour moi,
oui, mais non,
c'est vrai que Raikkonen reste très populaire auprès des fans. Peut-être effectivement un peu plus qu'un pilote.
Bah, tu sais très bien, enfin, on est rédacteurs tous les deux, tu sais très bien que quand on fait un article sur Raikkonen, voilà, tu peux faire un article sur Button, par exemple, le nombre de vues que suscite Raikkonen et le nombre de vues que suscite Button, c'est, pourtant, ils ont le même nombre de titres, ils ont le même palmarès, ils ont, voilà, ils se valent, entre guillemets, mais, voilà, il y a la personnalité de Raikkonen qui fait qu'il attire beaucoup plus de gens, etc.
Bah, c'est clair qu'au final, on peut dire que le meilleur sponsor qui ait trouvé Lotus cette année, c'est Raikkonen.
Ah, oui, c'est vrai.
Raikkonen et Fantime en 2013.
Ils ont pas encore retrouvé un sponsor vodka quand même.
Non, c'est vrai.
Mais il l'avait l'an dernier, je crois.
Bah, il l'avait, oui, forcément.
Mais normalement, là, ils sont en recherche. Ouais, c'est Amérique du Nord. Il y aurait des bruits qui couraient sur Blackberry ou autre qui
Blackberry, pourraient s'y tourner.
Bah, ils ont des grosses difficultés financières,
voilà,
mais,
c'est pour ça.
Mais histoire de donner un petit coup de boost dans les, bah, dans les médias ou sur la haute technologie, c'est vrai que ça pourrait leur faire du bien, parce qu'ils sont vraiment des pleins.
Voilà, c'est ça aussi qui est important dans le nom Lotus, c'est que tu n'attires pas les mêmes sponsors avec le nom Lotus qu'avec le nom Genie, par exemple. Avec Lotus, tu vas plutôt attirer des Microsoft, BlackBerry, plutôt que d'attirer, bon, tu me diras, ils ont attiré Unilever, donc c'est peut-être pas.
C'est très cool, Unilever. Quand même,
c'est une grosse boîte.
Mais... Il ne peut pas y avoir plus de la haute technologie, voilà. Alors, messieurs, alors, plus qu'une actualité, j'ai envie de dire une thématique, puisqu'elle regroupe en fait deux actus. Non, mais ça, elles ont un point commun, c'est les circuits futurs, avec une actu que tu as cité, Steph, qui est Austin avec les retards qui s'accumulent.
Attends, j'ai une actu qui a été prise, qui a été sélectionnée.
Bravo. Oui,
non.
Attends, je précise un truc, elle a été sélectionnée parce que je les ai regroupées.
Il fallait bien qu'il y ait une raison cachée derrière.
Dire que moi aussi j'ai fait le regroupement sur ma fiche, hein, j'ai parlé de plusieurs circuits en même temps, donc voilà. Pour ça j'ai pas mis, mais j'étais parti pour le mettre, Steph, quoi.
Ah, j'ai une larme qui.
Justement, ah non, là, Steph, ça fait si voulais... Voilà, Steph, si tu voulais peut-être un peu parler, parce qu'il y a que toi qui en a parlé, donc profites-en.
Bah, on voit vraiment que le calendrier de cette année pourrait être vraiment bouleversé, parce que je pense qu'il y aura une autre actu sur laquelle on va revenir, mais on pourrait se retrouver au final avec 18 courses au lieu des 20 du calendrier au départ. Et là, on a quand même des gros soucis sur Austin. Et il y a une chose avec laquelle les Américains rigolent pas, c'est l'argent. Et là, on se retrouve avec une dette de 18 millions d'euros de 18 millions de dollars que sont en train de se disputer les fonds publics et les investisseurs privés sur la construction. Et tout le monde se balance en ce moment la balle. Et s'il n'y a pas une décision qui est prise rapidement, on pourrait directement geler la construction du circuit en lui-même. Et on se retrouverait avec une course annulée assez rapidement.
Je pense sincèrement que c'est l'une des actus du mois de mai. Alors pour le moment, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a le Bahreïn, etc. Voilà. Mais je pense sincèrement que c'est un dossier qui va très vite revenir sur la table avec beaucoup d'importance, parce que même là, cette semaine, quand il montre un peu les travaux sur le circuit, on est quand même très très loin d'avoir un circuit qui aura l'air prêt en novembre. Quand on voit déjà que l'Inde, ils ont fini à la dernière minute, ils refaisaient encore la peinture le jeudi matin, c'est à se demander s'ils vont pas refaire les peintures à Austin le dimanche matin, quoi, parce que là,
voire pire le lundi matin.
Voilà, la piste, on a quand même du mal à, enfin, on la devine, mais on a quand même du mal à la voir. Les tribunes, tout ça, ça a pas l'air d'avancer bien vite. Si en plus derrière il y a des guéguerres. Alors moi j'ai lu que c'était pour le ticket d'entrée au calendrier, les 18 millions que demande Bernie. On n'est pas arrivé. Je pense que ça peut être une des affaires dont on parlera au mois de mai, mois de juin, mois de juillet.
C'est déjà revenu régulièrement. C'est vrai qu'ici c'est un peu occulté par Bahreïn, mais le circuit d'Austin qui sera pas prêt, on en parle depuis l'annonce du circuit en fait. Depuis qu'on sait qu'on va aller aux États-Unis à Austin. La question de savoir s'ils seront prêts à temps, si les travaux vont reprendre, s'ils sont arrêtés pour de bon, ça revient régulièrement. Donc oui, on va encore en reparler jusqu'à ce que le Grand Prix soit officiellement annulé ou ce qu'on sache officiellement si on y va, quoi.
Alors sinon, question Grand Prix futur. Alors, on l'a un petit peu évoqué, il y a le Qatar qui a redit, parce que c'est pas la première fois, qu'il souhaitait avoir un Grand Prix de F1. Ça emballe pas.
il projette 2018-2020.
Oui, c'est assez loin, oui.
Moi, j'aime bien le circuit. Enfin, j'ai toujours eu ce sentiment que parfois, c'était pas forcément mauvais d'aller sur des circuits à l'origine conçus plutôt pour les motos.
Ouais, ils veulent faire une course nocturne, hein, comme pour la course de moto, d'ailleurs.
Ceci dit, ils envisageraient aussi éventuellement de construire un nouveau circuit. Hein. Oui. Ils iraient pas forcément sur celui qui est utilisé pour la moto.
J'adore. C'est le genre de truc. C'est... Nous, en France, on est en train de se battre entre le Castellet et Manicourt.
On construit un circuit, moi.
Et les mecs, bon, alors, on a un circuit, il faudrait faire un peu de travaux dessus, mais en même temps, peut-être que le gouvernement voudra en construire un deuxième.
En même temps, au Qatar, ils sont prêts à débourser jusqu'à 40 millions, voire 50 millions pour avoir la F1. Donc,
Vu ce qu'ils vont payer pour une Coupe du Monde...
Il faudra payer les gens pour remplir les stades. Ça va coûter cher, ça aussi, de remplir les stades.
Donc, autre pays, je crois qu'en plus, tu l'avais cité déjà la semaine dernière, Dino, et je t'avais dit... Et en fait, ça s'est plus ou moins, enfin, pas confirmé, mais c'est devenu plus sérieux, c'est l'Argentine. avec Mar del Plata.
Un magnifique circuit.
Ah, ah oui, ah. J'étais inquiet parce que quand ils ont dit Mar del Plata, je pensais que il y a un circuit à Mar del Plata, il fait même pas 2 km le truc. Ouais, enfin, ça doit être un truc pour des courses locales. Je me suis dit, mais attends, ils peuvent même pas le changer, pas en un an. Et non, non, c'est une course urbaine en fait à Mar del Plata.
Mais quand on regarde plan urbain hein, de Mar del Plata, on se dit, voilà, s'ils font un circuit vraiment dans la ville, c'est un carré avec 4 grandes lignes droites, 4 opportunités de freinage. Et en fait, non, ce sera sur l'une des grandes plages de Mar del Plata avec un passage sur une grande jetée. Il y a un peu de relief. C'est vrai que j'arrive pas, j'ai pas réussi. Généralement, je vais voir sur Google View, là, essayer de voir les reliefs. Donc, apparemment, il y a un peu de relief.
Ça ressemble pas du tout à New York, Monaco, Valence, Singapour. C'est-à-dire que dès qu'ils font un truc urbain, je sais pas pourquoi, ils se disent, faut qu'il y ait de l'air marin quelque part, pas très loin, mais faut qu'il y ait de la mer.
Oui, puis déjà, quelle est cette idée de vouloir absolument faire des circuits urbains? Moi, oui. C'est le genre de circuit qui m'emmerde, mais royalement. Et autant je trouve que ce serait bien d'avoir l'Argentine de retour dans le calendrier, autant pourquoi encore vouloir faire un circuit urbain, quoi. Surtout que bon, ça va, ils vont encore nous ressortir le Monaco bis. Non, parce on a vu ce que ça donne à Valence, ce que ça donne.
Je pense que pour les pays, l'avantage, c'est qu'un circuit urbain, tu peux le commencer, tu fais 5 ans et au bout de 5 ans, t'arrêtes, ça t'a coûté que les 5 ans que t'as
ça
fait.
Moins, là ça où coûte tu vois
les
cher,
États,
hein.
Voilà, là où tu vois les États-Unis, ils sont quand même déjà dès le départ en train de mettre 200, 250, 300 millions pour construire un circuit. Si la F1 n'y va que 2-3 ans, comme c'est le cas par exemple de la Corée, où apparemment la Corée, on va peut-être y aller que 3 fois, Eh ben, les Coréens, après, ils restent marrons avec un circuit qui leur a coûté 200 millions sur les bras, qu'ils ont même pas rentabilisé, qu'ils rentabiliseront jamais.
Bah écoute, on attend encore les gratte-ciel, hein, on a que des vaches, hein, donc.
Oui, bah. Alors, et des vaches et des bordels chez nous.
Oui, c'est vrai. Non, mais ça sera fun, Mar del Plata, puis c'est Brembo qui sera content, si veux. Mon dieu, c'est pointe.
T'as intérêt de prier de ces mecs 250 mètres avant le freinage, pourvu que ça tienne, pourvu que ça tienne.
Non mais c'est quand même désolant parce que de voir la F1 tourner comme une franchise. Là, je vois la Corée du Sud, bah ils ont investi 200 millions d'euros juste pour quoi, 3 courses. On va partir en Argentine pour combien de temps? Idem, on va peut-être faire 3-4 saisons.
Mais là, ça leur coûtera juste le circuit, enfin, juste les épreuves qu'ils ont faites.
Ouais.
Je pense que c'est là aussi où il y a, de la part des pays qui veulent organiser une compréhension du système à la Bernie Ecclestone, c'est qu'ils se disent, de toute façon, si jamais on doit dégager, si un jour c'est trop cher, comme on aura fait ça sur un circuit urbain, on peut se barrer sans que ça nous coûte trop cher. Les courses qu'on aura faites, on le voit avec Valence, quoi. Valence, ils disent, aujourd'hui, on peut arrêter, ça nous dérange pas, quoi. On aura fait nos courses, on aura parlé de nous, mais après les installations, on n'a pas besoin de les entretenir ou de les repayer, puisque c'est la rue. Donc.
Mais si on va passer à une autre actu, puisqu'il y a eu cette actu, un pilote qui se verrait bien chez Ferrari si Ferrari le demande.
Moi, ça m'a beaucoup fait rire.
C'est un pilote jeune premier, hein, puisque bah, c'est vrai, il a fait que 2 courses. Il a fait que 2 courses en IndyCar, c'est un jeune premier. C'est Rubens Barrichello qui dit qu'après tout, oh ben écoutez, si Ferrari m'appelle, hein. Pourquoi pas?
Mais il faut qu'il attende encore quelques années, ils le rappelleront pour faire les Racing Days de Suzuka.
Non, moi ce que j'ai bien aimé dans cette actu, c'est qu'en fait, dans le même temps, il donnait comme conseil à Massa de se détendre. Et derrière, il vient dire, si on m'appelle, moi je viens.
Ah non, mais ça c'est le meilleur, quoi. C'est le baiser du dragon, quoi. C'est le mec qui dit, écoute, je vais te donner des conseils pour que tu t'en sortes. Mais en même temps, si ça te dérange pas, je vais quand même envoyer mon CV parce que voilà, tu sais.
Mais écoute, on sait bien vu la situation de Ferrari qui veut remplacer Alonso. C'est évident.
Oui, bah oui.
Oui, puis on sait très bien aussi que si jamais ils doivent remplacer un pilote, chez Ferrari, Barrichello est le premier sur la liste.
Ah oui.
Mais j'ai failli faire un poisson d'avril sur ça. C'est que il rappelle Barrichello pour remplacer Massa. Puis je me suis dit non, ça va pas le faire. Hein. Puis en même temps, je me disais c'est quand même crédible. Et effectivement, puisque Barrichello lui-même il croit.
Oui, lui il croit. Oui. Nous non.
Bah, rappelons que c'est un homme quand même qui a cru entre 2000 et 2005, il a cru chaque année qu'il allait se battre pour le titre.
Oui.
Il a raison. Il s'est battu pour le titre.
Ouais, on vous a parlé
pour le titre de Schumacher.
Oui, voilà.
Voilà.
C'était un peu pareil avec David Coulthard. Chaque année, il nous sortait, je vais me battre pour le titre. Et à part en 2001, il a quand même jamais.
Mais ce qui était drôle au moins avec David Coulthard, c'est qu'au bout d'un moment, il en a fait un gag. Parce que même ces dernières années, il mettait, ouais, allez, encore une fois, même s'il savait très bien qu'il avait aucune chance. Alors que Barrichello, quand même, il y croyait vraiment.
Mais Barrichello, il est convaincu qu'il sera champion du monde de Formule 1 cette saison. Alors il dit, mais Ruben, si tu cours pas en Formule 1, il dit, oui, mais c'est pas fou, en IndyCar, je vais marquer des points dans les deux championnats, ça va.
Bah quoi qu'il a même pas eu le, tu disais qu'il était jeune, comment dire, jeune.
C'est pour ça que j'ai pas dit rookie.
Ouais, parce qu'il l'a pas.
Parce qu'en effet, il est pas rookie. On peut pas lui donner le titre de rookie.
Bon, moi c'est la partie de la conversation où je ne dis plus rien.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Ça dépasse mes compétences.
Ah mais c'est non, vrai, mais pour nos auditeurs qui peut-être ne suivent pas l'IndyCar, normalement les nouveaux en fait, ils ont le statut dit de rookie et il y a une compétition en fait pour qui est le meilleur rookie de la saison.
Et en plus ils ont des privilèges, c'est-à-dire qu'ils ont sur les circuits, ils ont aussi le droit de rouler une demi-heure de plus, je crois, lors des séances d'essai, etc. Et au départ, ils avaient dit à Rubens qu'il n'était pas un rookie. Regarde son palmarès de F1. Même si Nigel Mansell a été un rookie.
Ouais, mais justement, ils veulent pas répéter ce genre de truc.
Et donc voilà, ils ont dit non. Et puis en fait, lui, il a un peu râlé et, en disant justement, c'est injuste parce que moi, je découvre tous les circuits, je découvre la voiture et compagnie. Donc ça serait bien que j'aie quand même le droit au privilège des rookies. Donc officiellement, il dispute pas le championnat rookie. Mais il a quand même les privilèges du rookie sur les circuits qu'il ne connaît pas.
Oui, sur les ovales, je crois.
Les ovales et tous les circuits routiers où il n'a jamais roulé. Donc, un Finillon, il n'aura pas les privilèges. Barber, bon, ça c'est trop tard, c'est déjà fait. Il n'aura pas les privilèges. Il n'aura pas eu les privilèges. Et puis, là, il a roulé cette semaine, je ne sais plus où, où il n'aura pas les privilèges non plus. Tu peux te réveiller, Ben.
Ah, merci.
Non, quelque chose à rajouter sur Barrichello À part que c'est beau, quelqu'un plein d'espoir.
Et il a quand même battu Bourdais, hein.
Ah oui, non, mais.
Oui, je suis un super bon camarade, Ben.
Là, quand même.
Non, ça va, il a fait une bonne course, mais Bourdais aussi, donc. Non.
Oui, mais il a marqué moins de points que Barrichello. Hein, Ben?
Ils ont pas la même voiture. De quand même Bourdais.
Mais on s'en fout!
Je défends mon Sartois. Non, là on touche pas.
Faut expliquer là, c'est que malheureusement Ben a eu le malheur de faire dans sa chronique de dire que Barrichello avait marqué 37 points et que c'était déjà bien face à Bourdais, par exemple, qui était un spécialiste de la discipline, etc. Et il s'est vu un peu réagir.
Absolument pas quoi tu parles. Va relire ma chronique. Je ne vois absolument pas quoi tu parles.
Et il s'est fait corriger par des experts de l'IndyCar qui lui ont dit que voilà, Bourdais, il n'avait pas forcément une aussi bonne voiture que celle de Barrichello et qu'il fallait donc relativiser les performances de chacun.
Bah, quand j'ai lu l'article, je t'avoue que j'étais un petit peu sur les lapes tendues. Mais
en disant jamais je ferai l'émission avec ce mec.
Bah ouais, il a fallu que tu augmentes le cachet x2 pour que je vienne, mais bon.
Déjà, c'est vrai qu'à
voiture équivalente. Non, ouais, à voiture équivalente, c'est ça que j'aurais bien voulu voir, mais je pense que ouais, quand même Bourdais sur le déclin, donc c'est pas étonnant que. Non. Justement. Entre Barrichello et Bourdais, je dirais que la différence qu'il y a, c'est que même qu'il y ait la différence d'âge, il y a une motivation supplémentaire pour Barrichello. Barrichello est sur une nouvelle discipline, il découvre, il adore ça, il a toujours l'envie de courir, il a cette flamme. Oui, ouais, mais Bourdais,
c'est aussi toujours un peu avec le spectre de se dire j'étais champion Champ Car. Ah, c'était pas aux grandes heures du championnat nord-américain monoplace, donc on a tendance un peu d'évaluer. Là, il revient aussi avec l'idée de se dire je veux montrer que je les ai pas volés mes 4 titres. Bon, je pense qu'il y a derrière.
Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que le Barrichello, on aurait pu lui donner une caisse à savon, le mec il serait déchiré sur la piste. Bourdais, on lui donne la caisse à savon, il sait qu'il a une caisse à savon, qu'il ira pas plus loin. Et il sait que la voiture qu'il a va lui donner des possibilités, mais pas énormes. Sinon, il aurait fait le championnat complet. Ah, il se déchire, ah ça là-dessus. Ouais, mais sinon, il aurait fait au moins la saison complète. Et ça, déjà, rien que ça, ouais, je le reproche quand même. Bah, normalement, il va faire quand même la pige sur Le Mans.
Bah voilà, il y a une épreuve qui rate à cause de ça, mais après,
voilà.
C'est aussi justement parce qu'il sait aussi que sa monoplace lui permet pas de jouer le titre, donc il peut se permettre de manquer une course. Mais je pense que si aujourd'hui il avait une monoplace pour jouer le titre, il n'a pas fait Le Mans, mais après, c'est Le Mans. Vraiment,
ah oui, c'est quelque chose d'important. Mais voilà, s'il aurait une bonne voiture, il l'aurait pas fait, et là j'aurais compris. Le fait qu'il s'engage sur Le Mans, ça m'a fait comprendre que voilà, il avait pas des espérances folles sur le championnat. Même lui, il l'a réalisé, donc à ce moment-là, ça coupe un peu quand même la motivation, je pense, qu'il est pas à 100%.
Mais après, il est quand même dans une petite structure qui va faire progresser, donc je pense qu'il y a aussi ce challenge-là derrière. Et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient. En endurance, il va rouler avec qui? Parce que avant il roulait avec Peugeot, mais
c'est vrai.
Normalement, il garde toujours l'ouverture avec Pescarolo, et logiquement, c'est avec Pesca, et on devrait avoir un duo qui devrait se jouer entre Pesca. Il y a Loeb qui sera aussi. Normalement, c'est la première voie qui est vue, parce que Audi n'en veut absolument pas, et derrière il y a guerre d'autres options. normalement c'est PSK qui garde la mainmise sur derrière Peugeot sur Bordet.
Alors messieurs, une quatrième actu où on aura l'occasion de se fâcher avec la gente féminine, puisqu'on a appris un futur moment historique, hein, j'ai envie de dire, mais qui devrait arriver, puisque Monisha Kaltenborn sera, c'est plus que du conditionnel, c'est normalement si tout se passe bien, sera la première femme à diriger une écurie de Formule 1, et cette écurie, bah, c'est Sauber.
Ouais.
Eh bien, personnellement, j'en suis vachement heureux, quoi. Parce que peu importe le sexe de la personne, elle a toutes les capacités et on voit que tout le responsable et tout sont derrière elle et peu importe le sexe de la personne.
Elle est déjà directrice du conseil d'administration.
Voilà. Hein. Voilà. Ce qui est déjà une première. Hein.
Voilà.
Exactement. Elle a une carrière derrière elle qui est plutôt impressionnante et c'est ses qualités de meneur qui vont la mettre en haut de team. Et oui. Ouais, mais ça fait un peu meneuse de revue, c'est pour ça que j'ai un petit peu...
Justement, c'est ça qui est drôle.
Non, pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour la F1 et voilà, de pouvoir donner un petit regard différent sur le fait que voilà, c'est pas qu'un sport misogyne et machiste. Voilà, il s'ouvre et c'est... Non, c'est vraiment... Ouais, moi, j'étais vachement content quand j'ai lu la nouvelle.
Ouais, puis c'est quelqu'un qui est déjà dans l'équipe depuis quelques années, oui. Donc ce sera une transition en douceur. Et voilà quoi. Ce sera un peu étrange de ne plus avoir Peter Sauber aux commandes, mais ce sera
c'est
sûrement
bien.
Encore.
C'est bien
il sera encore sûrement régulièrement dans les paddocks, donc.
Voilà, c'est bien aussi de sa part. Quand on compare justement avec un Bernie qui est toujours là, bah lui il dit bah non, qu'il se sent pas prêt à être à la tête de l'équipe. Il a dit justement au-delà de 70 ans, donc la date limite on va dire, ça serait octobre 2013, et de dire bah voilà, il y a un moment faut que j'arrête. Bah je pense déjà à ma succession.
Moi je trouve ça bien. Après c'est pour moi j'ai envie de dire c'est un non événement parce que. Voilà, enfin j'estime que c'est important historiquement, voilà, maintenant je pense que la F1 est un sport où les femmes peuvent très bien opérer et,
voilà, c'est pour ça que c'est intéressant quand même. C'est vrai que parfois on a été très critique, on a parlé de Maria de Villota sur le fait que juste, on a été très critique parce qu'on se disait est-ce qu'elle a le niveau, est-ce que c'est pas
bah,
juste
voilà,
un que... voilà, c'est bien de dire bah voilà une femme qui est parfaitement compétente et elle a tout à fait sa place et c'est très bien de le mettre en avant.
Moi, je trouve qu'au-delà du fait qu'une femme prenne les commandes d'une équipe de défense, c'est le départ de Peter Sauber, qui est quand même une figure emblématique de la catégorie.
Puis surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est relativement clair. C'est-à-dire que, il dit, je vais partir, je vais céder les rênes. Là où on voit, par exemple, chez Williams aujourd'hui, enfin, je suis incapable de dire chez Williams qui gère. Entre Adam Park qui s'en va, comment s'appelle
Patrick Head aussi.
Patrick Head qui est parti, Frank Williams qui s'était qui était parti avant de revenir. Enfin voilà, aujourd'hui chez Williams, je suis incapable de dire qui dirige ou qui dirigera à l'avenir s'il arrive quelque chose à Frank Williams.
Pour le consortium Williams, je crois que c'est la fille de Frank Williams qui.
Elle est au
conseil
d'administration.
Voilà, elle est au conseil d'administration maintenant.
Conseil d'administration.
Est-ce que c'est elle qui va diriger? Enfin, elle arrive d'où? C'est ça.
Oui.
Elle arrive d'où? Elle était, je crois, responsable auprès des partenaires. Enfin, communication auprès des partenaires, c'est l'une des deux responsables com de l'équipe. Voilà, enfin, de là à diriger une équipe, il y a encore du chemin. C'est moi, Williams, je trouve ça très flou aujourd'hui. Je suis paumé avec Williams, c'est ce qui me rend pas.
Bah, c'est vrai que ce savoir qui sera dans le paddock derrière les écrans. Sam Michael est plus là, Adam Parr est plus là, Patrick Head est plus là.
Ah non, mais après, elle dirigera simplement le conseil d'administration. Donc après, il y aura un directeur de team et ça sera lui qui sera derrière les écrans. Oui, ouais, voilà. C'est là où la décision devra se prendre. Mais à mon avis, ils ont raison de réfléchir. Il y aura peut-être des possibilités au cours de l'année de pouvoir faire signer des personnalités si les écuries vont pas mieux. Et c'est sans doute qu'ils sont en train de viser, quoi.
Mais chez Williams, le successeur désigné de Frank Williams, il y a encore quelques semaines, c'était Adam Parr.
Ah oui.
Jusqu'à ce que Bernie fasse son cinéma. Et le plus dehors.
Parce que
c'est quasiment lui qui l'a mis dehors de chez Williams.
Oui, oui, c'est ça.
D'après ce qui circule.
Ça a été si soudain que,
Mais Adam Parr, il y a 2-3 ans, il devait déjà, il a envisagé de partir quand il y a eu le refus de mettre Williams en bourse et de pouvoir se séparer des parts qu'il avait chez Williams. Il avait déjà envisagé de partir, mais il était resté après l'assistance de Frank Williams. Mais à mon avis, non, j'ai pas trouvé étonnant son départ, parce que c'était déjà une chose qu'il avait envisagé auparavant. Par contre, ça a été fait de façon abrupte.
Ce qui est étonnant, c'est qu'une semaine avant, t'as Frank Williams qui dit, voilà, c'est Adam Park qui va me succéder, c'est mon successeur naturel. La semaine d'après, moi, j'étais complètement déconnecté de l'actu F1 à ce moment-là. J'arrive, je vais sur le site, Adam Park quitte Williams.
Ah bon?
Eh ouais. C'est un peu l'effet d'arche. Tu vois, c'est comme si on m'avait annoncé que Ferrari avait remporté un Grand Prix. Tu vois, c'est un peu pareil.
Mais non, moi ça m'a pas ça m'a pas étonné parce que quand Frank Williams disait ça, j'étais plutôt surpris de l'annonce de Frank Williams. Quand j'ai vu la démission, je me demandais si Frank Williams avait pas essayé de prendre au piège Adam Parr en lui signifiant voilà, ouais de le retenir par rapport aux médias, de mettre les projecteurs sur lui et de lui faire un petit peu l'obligation de rester. C'est pour ça que le départ m'a pas trop surpris. C'était une chose que j'avais envisagé de me dire, ouais, est-ce que Frank Williams n'est pas en train de jouer sur le tableau médiatique pour le maintenir au sein du team?
Peut-être justement dans l'opposition avec Bernie Ecclestone. Enfin, j'ai pas trop les ressorts d'histoire, mais si c'est effectivement sur pression de Bernie Ecclestone, peut-être un moyen justement de montrer à Bernie, mais c'est lui mon successeur, je communique là-dessus et avant finalement de céder. Et c'est quoi histoire avec Bernie Ecclestone, Ben? Parce que
De ce qui circule, apparemment, Williams et Parr se sont rendus à Londres, dans le bureau de Bernie, pour négocier les accords Concorde, qui se négocient équipe par équipe. Et Bernie Ecclestone a refusé de recevoir les deux, en disant « moi je ne négocie qu'avec Williams ». Et sur ce entrefait, Williams et Parr sont repartis chez eux. Et vu les certains avantages que Bernie est prêt à céder à certaines équipes sous certaines conditions... Williams aurait fini par signer les accords Concorde sous certaines conditions, et à la condition également que Parr dégage. Quoi. Enfin, c'est ce qui circule, hein, maintenant, on n'est pas dans le secret de Bernie. Et...
Personne n'est dans le secret de Bernie.
Mais voilà, c'est vrai que le départ est quand même assez soudain, et pour ma part surprenant, vu les déclarations de Williams, parce que pour ce qui est de sa précédente envie de partir Parr, je n'ai pas suivi l'affaire, donc qu'il parte maintenant, ça m'a un peu surpris.
Alors, mission.
Moi, par rapport à ce que Dino disait tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression qu'on avait de nouveau une vraie personne qu'on pouvait identifier comme cette personne-là, elle dirige l'équipe au quotidien. Et c'est elle le team principal, c'est elle, le successeur de Williams. Parce que justement, les autres années, j'avais un peu l'impression que ça partait en sucette.
Mais c'est
avec
ça
qui se retire, qui se retire pas, Williams qui est là, mais qui sert un peu, qui a un peu fait un peu partie des meubles et qui est là pour faire, pas pour faire joli, mais on a l'habitude de le voir et il est là, voilà, sans être là. Et là, j'avais l'impression qu'on avait vraiment quelqu'un qui pouvait à terme prendre la place et, représenter l'équipe finalement, comme un gentil de la représenter Ferrari, comme aujourd'hui Martin Wichmars c'est McLaren, comme Ron Dennis l'a été. Ce qui manquait parfois chez Williams, c'est...
Mais c'est ça qui est intéressant aujourd'hui avec Sauber, c'est que aujourd'hui Sauber, on voit, ils ont fait un bon résultat en Malaisie. On peut se dire, voilà, ils peuvent voir l'avenir, puisque de toute façon la succession, elle est déjà établie. Là où Williams, on voit le même renfort cette année, la même sensation de retrouver Williams un peu plus vigoureuse, mais on se dit. Et maintenant, s'il se passe quelque chose, voilà, si jamais Frank Williams disparaît, qui va prendre la relève? Est-ce que ça va pas être le bordel? Est-ce que Sophie Williams a les reins suffisamment solides pour pouvoir mener la barque? Enfin, voilà, c'est ce qui est encourageant pour Sauber. Est-ce qu'il, pour le moment, est pas encore encourageant pour Williams?
Oui, mais Sauber, je le soulignais, je crois, dans le dernier mag, c'est si tu regardes la carrière de l'écurie Sauber, elle a souvent elle a resté stable, quoi. Elle a jamais fait des très mauvaises saisons. Elle a fait des très bonnes, mais voilà, elle a souvent été stable dans le peloton. Et je trouve qu'elle c'est symbolique de la bonne gestion de l'équipe.
Ah, messieurs, on va passer à vraiment l'actu qui a concerné tout le monde, parce que tout le monde l'a cité. C'est pas une actu, c'est plusieurs actus, mais qui ont toutes le même thème. Ce n'est pas le prochain Grand Prix, mais le prochain après Grand Prix, s'il a lieu. C'est Bahreïn.
On saura théoriquement ce week-end, hein, puisqu'il y a une réunion de prévue samedi apparemment à Shanghai. Et que les discours tenus par les différents acteurs, notamment Bernie Ecclestone, tendent à penser que ça sent le roussi.
Il commence à retourner sa veste, hein, Bernie, parce qu'il a été très défenseur jusqu'à quasiment aujourd'hui. Et là, on sent qu'il commence à retourner un peu sa veste.
Non, mais il avait dit dès le départ que il avait dit il y a 3-4 mois, je peux pas décider tout de suite. Maintenant, si la situation début avril est pas bonne, on verra en conséquence. Donc c'est pas qu'il retourne sa veste, mais c'est voilà, il, à un moment donné, il faut aussi revenir à la réalité. Et il sait très bien qu'il
oublie. Ah, il a dit quand même qu'il fallait absolument aller au Bahreïn et tout ça. Hein.
Oui, mais ça c'est normal, ça c'est le discours du promoteur voilà. Qui a des enjeux et que sincèrement, il y a très peu de chances que le Bahreïn se redresse. Après deux annulations consécutives, il y a très peu de chances si Bahreïn saute cette année qu'on y retourne. Ça va sans doute faire plaisir à certains, mais voilà, donc pour lui c'est la perte d'un contrat potentiel et il pourra pas faire comme l'an dernier, récupérer les 25 ou 30 millions qui étaient perdus l'an dernier, qu'il a réussi à reprendre quelques mois après. Là cette année, ça sera difficile de faire payer une deuxième fois le Bahreïn pour une course qu'ils n'ont pas eue.
Mais c'est là justement que le bras de fer se joue, parce qu'en fait si c'est le circuit, enfin le pays qui annule, ils doivent payer.
Oui.
Tandis que si c'est la FIA ou Bernie quoi que ce soit, il y a pas, l'argent n'est pas dû. Donc c'est pour ça que ça traîne aussi. Ce qui est complètement ridicule. Parce qu'il y a 3-4 mois qu'on ne décide pas, je suis totalement d'accord. Je pense que je l'avais d'ailleurs en janvier souligné dans une de mes chroniques. Mais là, maintenant, si je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être ridicule. On sait très bien que la situation ne va pas s'améliorer. Et c'est pas
les
possible.
Choses ne se sont pas améliorées. Il y a même eu, des associations. Il y a eu un mort. Il y a des associations qui ont dit qu'elles en profiteraient justement du Grand Prix pour se faire entendre, même si ce serait pacifique d'après elles.
Il y a des tags partout dans les rues de Manama. Il y a des protestants qui vont protester avec les t-shirts ou des casquettes aux couleurs des équipes. Notamment Ferrari, parce que c'est quand même entre guillemets le symbole de la F1. C'est là où on se rend compte quand même de la force de Ferrari, c'est que les gens qui dessinent comme Formule 1 sur les murs, c'est pas une McLaren, c'est pas une Red Bull, c'est une Ferrari.
Comment dire, moi ça faisait justement partie de ma citation, c'est que de cette émission, c'était le soutien qu'apportaient les jeunes au mouvement et contre la F1. Après qu'ils ciblent Ferrari, ouais, c'est un petit peu logique parce que quand même il y a.
Mais c'est pas quand même
une... c'est symbole, juste voilà, c'est symbole.
C'est pas que de la F1. C'est que si tu prends Ferrari dans son image globale, c'est quand même.
Tout à fait.
Ouais, voilà, c'est et du peu. Ouais, mais même en dehors du prestige, c'est quand même
prestige au sens de l'image de marque.
Ouais, ouais, c'est l'image de marque de Ferrari, c'est justement d'avoir d'être pour une entreprise de droite pour les riches contre le peuple, une chose que jamais pourront accéder le peuple. C'est dans l'image de marque qui a été choisie. Oui. Je pense que c'est plutôt pour cibler ça plutôt que l'image de marque de Ferrari sur la F1.
Je pense que c'est surtout pour la F1.
Voilà, ouais, c'est parce que
dans
c'est
l'inconscient collectif, voilà. c'est comme à une époque tu parlais de Schumacher, c'était un pilote emblématique de la catégorie, comme Fangio l'a été ou d'autres. C'est vrai que maintenant tu parles de, ouais, même prenons Massa, les gens qui sont pas intéressés par la F1, Massa c'est peut-être pas le bon exemple, mais connaissent pas forcément. Tandis que Schumacher, Ferrari, c'est deux noms qui
même Alonso. F1, et puis en Alonso, plus, il y a plein de gens qui connaissent Alonso sans être fan de F1, quoi.
Entre guillemets, oui. Ferrari incarne autant le pouvoir riche entre, enfin voilà, les riches que McLaren, que Mercedes ou tout. C'est avant tout, c'est le s'ils prennent Ferrari comme ça, c'est parce que c'est le symbole de la F1 et que voilà, le premier truc, c'est la preuve que le premier truc qu'on pense avant tout, surtout dans les pays qui sont pas forcément d'une grande culture de sport auto, c'est Ferrari. C'est aussi parce que c'est quand même une marque qui est très installée dans le Moyen-Orient. Ferrari est une des grandes marques dans les Émirats et compagnie. Et puis parce que c'est aussi, je pense, l'incarnation d'une image de marque qu'on ne peut pas souiller. C'est-à-dire que grosso modo, c'est une invocation à Ferrari en disant voilà ce que vous représentez, vous êtes une image de marque, vous ne pouvez pas vous souiller. C'est d'ailleurs les propos de différents protestataires qui disent comme ça, vous ne pouvez pas vous entacher du sang du peuple bahreïni. C'est tout simplement, c'est même pas appeler les gens à leur dire faites ça pour nous, c'est faites ça pour vous, ne venez pas au Bahreïn parce que ça ne vous rend pas service à vous en tant qu'équipe, mais aussi en tant que constructeur, porte-étendard de vos pays, etc.
Tu sais que il y a même un symbole qui peut être associé à ça. Alors, c'est peut-être plus inconscient, c'est peut-être pas forcément fait exprès, mais faut pas oublier que c'est la voiture rouge, rouge comme le sang.
Oui.
Je sais pas, tu me parles de Ferrari. La première notion qui vient, c'est une voiture de pouvoir. Donc la marque.
En F1, t'as que des voitures de.
Pas tellement.
T'as McLaren, t'as Mercedes.
Mais c'est pas des voitures qui voient dans la rue, qui appartiennent, au chèque. Non. Oui, mais je veux dire des Mercedes ou autres, ils doivent en voir. Mais je veux dire que les Ferrari en elles-mêmes, ça appartient plus à la classe encore plus influente du Qatar ou autre. Je sais pas, moi c'est une image personnelle que je me fais. Elle
parce
est peut-être
trop
mauvaise.
Anti-capitaliste, c'est pour ça.
Bah, un petit peu, je dois avoir une mélanchonie.
Sinon, on a vu que du côté des équipes, bon, il y a pas de position officielle, il y en aura pas, hein, faut pas rêver. Par contre, c'est sur Autosprint, je crois, qui aurait un témoignage qui est forcément anonyme. Qui dirait que apparemment l'équipe que la personne représentait est je sais plus c'était la moitié ou tout le paddock, enfin il disait qu'il ne voulait pas y aller.
Bah il y a des grosses marques, je pense logiquement Mercedes
déjà,
ou autre, qui doivent
pas
être intéressés.
Ferrari,
mais
a pas envie d'y aller.
Mais après personnellement, même nous-mêmes, je pense que moi j'ai vraiment pas envie de voir la F1 arriver là-bas. Je veux pas. Déjà j'ai connu à l'époque de l'apartheid, quand j'étais tout enfant, voilà, j'entendais le mot apartheid sans lui prêter une définition. Mais le jour où on m'a dit et expliqué qu'est-ce que c'était que l'apartheid, quand je voyais les F1 en Afrique du Sud, je trouvais ça ignoble. Je trouvais ça ignoble cette image de dire que on a pu se rendre dans ce pays-là où il y avait une ségrégation qui était énorme. Et là, dans ce pays-là, il y a une révolution latente qui s'est faite. Il y a à peu près la même ségrégation qui est faite dans certaines couches sociales. Voilà, faut absolument pas qu'on y mette les pieds.
Et c'est ça, je crois qu'on l'a déjà évoqué dans le SAV. C'est vrai que
oui.
La F1 ne s'est jamais préoccupée jusqu'alors. Véritablement de quel était le régime où elle allait. On l'a déjà dit, c'est vrai que là on focalise sur le Bahreïn, mais on est allé en Espagne alors qu'il y avait Franco, on est allé en Argentine alors qu'il y avait Pinochet.
On est allé sur des circuits où il y avait des noms de virages ou des noms de lignes droites qui étaient au nom de dictateurs ou de colonels ou etc. On va en Chine actuellement où les droits de l'homme sont bafoués et piétinés, où on en fait croire tout ce qu'on veut, mais voilà. Après c'est aussi le truc, c'est on est bien d'accord que c'est notre point de vue à nous, on n'aime pas. Maintenant, la Formule 1 ne peut pas avoir ces états d'âme humains, entre guillemets, c'est avant tout des états d'âme économiques, d'âme politiques, parce que avant tout, la Formule 1, qu'on le veuille ou non, c'est devenu un business où faut vendre une image, faut vendre des écuries, ce genre de choses. Et c'est là où tout est le dilemme, c'est que on se retrouve aujourd'hui, où est l'argent? Bah, l'argent, il est là où on l'accapare, et où on l'accapare, c'est avant tout dans des pays qui ne sont pas nécessairement très démocrates.
Et pourtant, tu vois, je me suis intéressé à savoir si la F1 était démocratique ou pas dans les pays où elle va, et globalement, elle est plutôt démocratique.
Parce qu'elle est européenne.
Parce qu'elle est européenne.
Voilà.
Ouais, mais en même temps, la F1, dans son esprit, n'est pas démocratique. Excusez-moi, ça dérive un peu, mais regardez les accords Concorde. Elle a pas d'éthique personnelle sur le fait que si elle était vraiment avec un esprit sportif en elle-même, les accords Concorde répartiraient les choses nettement plus équitablement et les plus petites équipes ne se retrouveraient pas à zéro. Personnellement, je trouve ça indigne. Donc, à ce moment-là, qu'elle ait pas cet état d'esprit au départ fait que ça ne m'étonne absolument pas qu'il soit pas dérangé d'aller en Chine, d'aller au Bahreïn, peut-être pas. Là, l'image serait vraiment trop négative, mais d'aller dans des pays où la démocratie n'est pas respectée, c'est une chose qui doit absolument pas les déranger. Mais comme tu dis, il y a de l'argent à faire.
Je dirais même plus, je pense que l'aspect démocratique ou non de la F1, il n'est pas nécessairement lié aux accords Concorde, parce que bon, ça après, c'est du négoce. Mais là où la F1 n'est pas démocratique, c'est quand on voit la FOTA. C'est-à-dire que dès que les équipes essayent elles-mêmes d'être démocratiques et de mettre en place des systèmes démocratiques, elles tombent dans des systèmes qui sont plus des systèmes démocratiques, mais qui sont quasiment dans des systèmes de parti ou de guéguerre intestine, ou de toute façon, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a un enjeu, parce que le but du jeu, du sport, c'est quand même d'avoir un meilleur à un moment donné, tu ne peux pas être démocratique quand à un moment donné tu veux être au-dessus des autres, c'est pas possible. Donc tu es toujours un peu orienté. C'est là où la démocratie, de manière générale, même avec le sport, n'est pas compatible. Un sport démocratique, peut-être parce qu'il vise les gens, maintenant un sport démocratique dans son fonctionnement, je n'y crois pas une seule seconde. À partir du moment donné où chacun va défendre son intérêt, que ce soit l'intérêt d'une fédération ou l'intérêt d'une équipe, l'intérêt d'un sportif, etc. C'est pour moi, ça peut pas exister, un sport démocratique.
Moi, ce qui m'a gêné aussi dans l'histoire de Bahreïn, parce que bon, d'accord, là, la F1 va en Chine ou a été dans d'autres pays à des moments pas forcément opportuns, mais c'est que les équipes n'ont rien dit, absolument rien dit. C'est-à-dire que on a l'impression que si la FIA et Bernie nous disent qu'on y allait, bah on y va. Alors que bon, la situation à Bahreïn est quand même critique et que même d'un point de vue purement égoïste, pour leur sécurité à eux, c'est pas bon pour eux non plus d'y aller. Et là, on a l'impression, c'est pas grave, si Bernie nous dit qu'on peut y aller, on y va, et puis c'est tout. Alors que, bon, au bout d'un moment, il faudrait quand même qu'ils ouvrent un peu leur gueule, de temps en temps, et qu'ils prennent position, quoi.
Le pire, c'est que bah, s'ils annulent, ça va être l'argument. Ça va même pas être une question démocratique, de respect. Non, ça va être de dire parce qu'on n'est pas en sécurité, on peut pas organiser le Grand Prix.
Ils peuvent pas tenir un autre discours. Même les équipes, on voit bien, ils sont forcés, les patrons, de parler sous couvert d'anonymat parce qu'ils savent très bien que c'est pas possible. Enfin, parce que avant tout, c'est aussi des patrons d'entreprise et qui peuvent pas dire leur entreprise. Ah bah non, on va pas aller dans ce cas-là. C'est se fermer avec un marché. T'imagines aujourd'hui Ferrari dire non, en fait, on va pas au Bahreïn. Je peux dire que les du Bahreïn, ils vont regarder Ferrari en disant ah vous venez pas chez nous, ben nous on va pas venir chez vous.
Mais il y a des contraintes aussi. Je lisais des déclarations sur une toute petite équipe qui disait que leur souci majeur c'était pas le fait d'y aller ou pas, mais c'était le fait de pas pouvoir financer deux billets d'avion. Ouais. C'est-à-dire de pas pouvoir avoir un plan B pour repartir aussitôt et de se dire mais vous vous rendez compte de la somme que ça va engager contre deux billets d'avion rapidement.
Surtout quand tu penses qu'il y a deux petites équipes qui ne touchent pas de pognon. Elles font des frais, mais elles touchent pas de pognon, quoi.
Messieurs sur Bahreïn, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter?
Non, je crois qu'on a fait le tour, non?
De toute façon, même si la F1 y va, je ne regarderai pas le Grand Prix.
De toute façon, on peut dire, oh là, dis donc, tu vas loin.
Bon, nous, ah non, mais moi pareil, hein. Oui. Moi pareil. Hein. Je suis pareil que Benoît.
Non, hein, parce que je peux pas cautionner ça, moi. Mais bon, voilà. Outre le fait que de toute façon, je vais pas rater grand chose parce que le circuit ne m'intéresse pas et qu'on aura sans doute un Grand Prix pas passionnant. Si la F1 va à Bahreïn, je ne regarderai pas le Grand Prix.
Pareil pour moi.
Bon, du point de vue du SAV, on s'adaptera en fonction des circonstances.
Bah oui, forcément.
On fera naturellement un SAV de Bahreïn parce que voilà, bon vous regardez pas, d'accord, mais nous on est là pour faire assurer le service après-vente. Donc on regardera le Grand Prix. Après il y aura sans doute un traitement spécial et on voilà, je pense que ça sera pas une émission normale et on en parlera, etc. Maintenant, aujourd'hui, on pense quand même que l'hypothèse la plus probable, c'est que le Grand Prix n'ait pas lieu. Auquel cas, on va un peu bouleverser le programme du SAV, c'est-à-dire qu'initialement était prévu donc la semaine prochaine un SAV du Grand Prix de Chine, dans deux semaines le SAV du Grand Prix.
Lui, il aura lieu.
Voilà, la Chine aura lieu. On a un invité. Il y aura un SAV du Grand Prix du Bahreïn théoriquement et deux semaines après, les deux semaines qui suivent, il y aura deux numéros du MAG. Si jamais le Grand Prix du Bahreïn est annulé, on va un peu modifier le calendrier, c'est-à-dire qu'on fera bien évidemment le SAV du Grand Prix de Chine la semaine prochaine et la semaine suivante, à la place du SAV du Grand Prix du Bahreïn, on fera un SAV, un MAG, voilà, avec nos chroniqueurs, où on reviendra bien évidemment sur l'annulation du Bahreïn. Et après ça, la semaine, le 1er et le 2 mai, on enregistrera et on diffusera une émission spécial, jeu avec des auditeurs, enfin on sait pas trop,
on verra
un peu comment faire, et on fera un mag deux semaines plus tard, comme ça on arrivera à se caler sur le vrai rythme que devrait avoir la saison du SAV, c'est-à-dire une semaine un mag, une semaine un SAV du Grand Prix, une semaine un mag, une semaine un SAV du Grand Prix. Cela, il y en a un peu marre de se voir toutes les semaines pour en parler de l'actu.
Ouais, mais foutre voilà. Une semaine entre Chine et Bahreïn et trois semaines entre Chine et Malaisie, faut pas déconner. Voilà.
On vous tiendra au courant, théoriquement, dans le SAV du Grand Prix de Chine, on saura. Donc, on vous tiendra au courant du programme officiel à ce moment-là.
Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, vous avez posé la question qui a été l'actu principale de la dernière émission. Comme ça, Ben et Steph pourront y revenir. Vous, parmi les quatre, les quatre propositions qu'on avait faites, c'est le Grand Prix de France. Hein, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. 23 votes, 46%, qui est arrivé.
Oui, oui.
Près de 50%, hein. Donc vous avez quand même bien plébiscité cette actu face aux accords Concorde, qui a fait 12 votes, 24%, la polémique du F-Duct, 8 votes, 16%, et l'accident de Vettel Kartikeyan, 6 votes, 12%. Donc Ben, Steph, vous peut-être un mot ou pas sur...
Je remercie mes fans d'abord, déjà, qui ont voté pour mon actu. C'est vrai. Non, sinon, pas grand chose d'autre à dire. Voilà, on en est au même point pour le Grand Prix de France. C'est un effet d'annonce qui a fait un peu plouf, puisque tout ce qu'on a raconté, c'est des choses qu'on savait déjà. Donc, voilà. Après, comme d'hab, la France a le droit, son Grand Prix mérite d'avoir.
Ils ont oublié de dire que Magny-Cours était quand même, malgré tout, toujours en liste. Alors même, il y a que Magny-Cours qui y croit. Mais Magny-Cours.
Oui, il y a une histoire parce qu'il y a un député socialiste qui gère la région, ou je sais pas.
Oui, et puis il y a
ça dépendra du futur président.
C'est un ancien pilote qui a dit que lui il faisait tout pour aider le circuit. Je me demande si c'est pas Beltoise.
De toute façon, c'est quand même bête parce que depuis que la F1 n'est plus là, ils ont fini l'autoroute qui permet d'accéder au circuit. Il faudrait quand même qu'ils puissent s'en servir.
En attendant qu'ils finissent les tribunes au Castellet.
Ah oui, non, mais en même temps, entre les deux, franchement, le Castellet, le circuit en lui-même ne m'emballe pas plus que ça. Et Manicourt, bah, je crois que dans le dernier mag, Lino a déjà dit tout le bien qu'il en pensait, donc.
Et toi, Steph?
Bah, moi, lors de la dernière émission, je vous entendais parler qu'il n'y avait plus de petits de circuits en France, qu'il n'y avait plus rien, que le sport automobile ne pouvait plus venir en France. Et vous oubliez quand même ce petit village de Gaulois qui, chaque année, lutte fièrement pour maintenir le sport auto tout de même à un haut niveau en France.
Oui, mais le circuit Bugatti tout seul...
Voilà. Attention, ce qu'on a parlé, c'est de l'héritage F1 et de la culture du sport en F1. En dehors du Mans, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, toutes nos patrimoines sportifs, on n'a pas su mettre au standard. Le Mans est au standard d'endurance. Maintenant, nous, on se mettait du point de vue de la F1. Au niveau de la F1, il n'y a aucun circuit aujourd'hui. Le Mans n'a jamais eu, ou même pas, peut-être un ou deux, mais Grand Prix de Formule 1, il n'y en a jamais eu un. Donc voilà, c'est... On voulait pas te vexer, Tapka.
Ah non, mais le pire, c'est que, comme dire, ensuite, j'allais vous rejoindre, j'allais te rejoindre exactement sur ce principe.
Tu sais bien, Steph, on adore Astérix, donc on aime le Mans.
Mais non, j'allais te rejoindre, c'était sur le fait que voilà, on est juste qualifié et le circuit est juste certifié pour basquer Grand Prix de France moto, championnat du monde moto, mais ou endurance, mais qu'on pourrait même pas accepter vu la largeur de la piste et la configuration pourrait être très sympa, mais par contre on n'a absolument pas la largeur de piste pour pouvoir faire rouler des F1 dessus, ce que malheureux.
Je rêve, moi, de voir des F1 sur le circuit du Mans, mais le vraiment.
Ah oui.
Mais voilà, c'est un Mickey Mouse, mais finalement j'étais méchant. Mais vraiment, le circuit du Mans, juste un jour voir une F1 dessus.
Sur les Unodières.
Les Unodières, même avec les Gigan, voir les F1 trembler sans l'aileron avant de la Ferrari en 2011, c'est juste merveilleux.
Sinon, tu joues à Gran Turismo, hein. Tu prends une Ferrari, tu vas sur Le Mans.
D'ailleurs, ils ont Spa dans Gran Turismo, vous pouvez acheter le circuit de Spa.
Oui, dans un pack pour 4 euros.
Songez quand même que dans Gran Turismo, vous avez désormais Suzuka, le Nürburgring, Nordschleife.
Les deux Monza, versions.
Ouais. Vous avez Le Mans et vous avez Spa. Voilà, donc voilà. Essayez de trouver mieux maintenant. Il manque plus que Silverstone en fait, puis c'est bon.
Et le test track de Top Gear aussi.
Faut pas se priver, hein, c'est un plaisir rare de pouvoir parcourir ce circuit-là. Et ouais, même surtout le Nürburgring en petit et en ancien, c'est absolument magnifique.
L'ancien Nürburgring en vue intérieure, c'est un bonheur.
Donc pour cette semaine, hein, pour le sondage, on va vous proposer hein, les 5 actus qu'on a développés. Hein, donc le Grand Prix de Bahreïn incertain, Lotus qui ne sponsorise plus Lotus, Barrichello qui se voit chez Ferrari, Monisha Kettenborn qui sera la première femme à diriger une écurie de F1, et puis bah les circuits futurs, hein, Argentine et Qatar sur les rangs de la F1 et Austin dont les retards s'accumulent. Alors donc, parmi les autres actus, on va désigner celle dont tout le monde se fout. Moi, j'ai une grande favorite, mais bon. Donc, ouais. Les autres actus hein, qui ont été cités, il y a dans l'ordre le chinois Ma Qinghua qui rejoint HRT.
Ah oui, ça, on s'en fout.
Voilà, HRT. Ah ouais. Il y a aussi HRT.
Oui. Excuse-moi, tu pourrais juste me faire plaisir, et quand ça me concerne pas, comme là, c'est de citer la personne qui l'a. Non, parce non, que à chaque fois, on cible bien. Parce que la semaine dernière, j'ai quand même vu que Dino, il en avait eu 3 ou 4 qui sont passés à la trappe. Il a quand même eu la chance de pouvoir se défendre. Si là, je pouvais juste avoir un petit plaisir, parce que je me rends compte que j'en ai 4 qui ont été choisis cette semaine. Mais juste un petit plaisir personnel.
Non mais nous aussi on a la difficulté, c'est que il y a des actus qu'on traite déjà indirectement dans les autres SAV, donc on peut pas forcément tous les mettre. Voilà.
Vas-y.
On essaie de faire original.
Défends-toi.
Voilà. Oui, c'est ça.
Voilà. Moi aussi j'aurais pu mettre des autres circuits là, à l'Argentine, mais j'en ai parlé la semaine dernière.
Il y a aussi donc de Dino HRT aussi s'attaque à Caterham dans l'affaire les Aérolab. Tu aimes bien HRT cette semaine, Dino.
Mais non, mais c'est Aérolab encore une fois. C'est le scandale de demain.
Ah. Oui, mais ça aussi tu en as parlé dans la dernière mission, si je ne m'abuse.
Exactement.
Oui, mais c'était justement pour. Je me disais peut-être que quelqu'un va en parler. Voilà, je rajoute un coup.
Ah. Ensuite, Dino, tu nous as cité Villeneuve qui va prendre le volant d'une Ferrari.
Mais les œufs de Pâques, ils étaient à la liqueur ou
Oui.
En plus, c'est pas la première fois.
Hein. Franchement, Dino.
Mais non, mais voilà, je trouvais ça mignon. Et voilà.
Sinon, de la part de Gus, nous avons Vettel qui reconnaît être un mauvais perdant.
Ça, c'est bien.
Ce
qui est magnifique, c'est qu'il dit, je me suis excusé pour Button à Spa. Donc on parle de ça il y a un an et demi. Mais il dit voilà, je suis mauvais perdant. Des fois, faut que je prenne le temps de réfléchir. Mais pas un mot sur Kartikeyan, pas un site d'excuses, rien, que dalle.
Vers un durcissement des règles sur les échappements en 2013, point d'interrogation. Ça aussi, c'est Gus Gus. Steph Core, tu nous as proposé Alonso dans la cour des grands.
Oui. Ouais, c'était dans le fait qu'il rentre dans
tu
le...
Tu dis non, il a envoyé un mail. Alors, on va tout vous dire comment ça marche. J'ai envoyé un mail pour dire « Oui, mais non, mais c'est pas une vraie actu. »
Mais non, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, c'est quitte à choisir 5 actus, autant qu'ils mettent plutôt des actus qu'on peut approfondir, plutôt que de mettre Alonso, où déjà toi et moi, on en a parlé, et juste pour souligner une statistique qui est intéressante, mais qui peut se glisser au détour d'une conversation, ou etc. Voilà, c'était dommage qu'il gâche, entre guillemets, une actu à lui pour mettre ça...
Non, et en même temps, c'est comment dire, ouais, c'était le fait qu'il rentre dans le top 5, ouais, ça, je trouvais ça quelque chose quand même d'important sur la carrière d'un pilote, rentrer dans le top 5 des vainqueurs de Grand Prix, je trouvais ça important. Bon, en même temps, je me doute bien que Dino avait pas dû lire la chronique, donc c'est pour ça que l'info lui avait échappé.
De quoi ? Mais je l'ai vu la chronique. Non, je suis obligé de lire. Maintenant, si Spanefa, on nous paye plus à l'article qu'on fait, on nous paye à l'article qu'on lit.
Ah, on te paye, toi ?
Ah oui.
Ah, je comprends mieux le 1er avril. Ah ouais.
Sinon, on a eu de Steph Core encore 5 évolutions pour la F2012 à Shanghai.
J'ai failli le mettre.
Ça va pas suffire, ça.
J'ai pas lu l'article.
5, ouais, ça va pas suffire.
Mais c'était pour cela, ouais, que je l'avais mis. C'était pour le citer aussi.
Ah, ils ont dit, hein, il y avait 5 évolutions, mais ils ont bien confirmé qu'ils préparaient du lourd pour Barcelone. S'il y a bien une équipe en ce moment qui a pas envie d'aller au Bahreïn, c'est Ferrari.
Barcelone, ils en préparent 8024. C'est ça le problème.
Bah, surtout que pour avoir 2 voitures compétitives, ils ont une grosse évolution à faire. Ils ont à changer un mec qui est derrière le volant, là, qui a combien, 2 tours ou 3 tours à la fin du Grand Prix derrière
Alonso. Ça, c'est une évolution qui te fait gagner 8 dixièmes.
Ouais, voilà.
Et c'est pas trop chiant à monter dans la voiture.
Et le Rubens Barrichello, il te fait gagner combien?
Ah, il te fait gagner des points en retraite, hein.
Ah oui.
Et enfin, par Ben, Bianchi au volant de la Force India en Chine. Enfin, un vendredi, hein.
Avec cette question, où va-t-il se cracher?
Oh, le 14.
Non, mais c'est quand même un peu le seul mec remplaçant qui s'est gaufré avec la bagnole lors des essais, quoi. Ça la fout mal. Il aurait eu, à la limite, tu vois, moi j'aurais été un jeune rookie, je me serais dit, allez, le dernier jour à Barcelone, allez, je vais pas laisser Jules tout seul, allez, je me fonce dans le mur. Il n'y avait pas de jeune rookie ce jour-là, donc voilà.
Ah non.
Il était marron.
Ah, donc en fait, tu crois que Grosjean, il rend hommage à Bianchi le dimanche après-midi?
Oui, tout à fait.
Et Massa, c'est à Badoer qui fait, d'accord. Il n'y a que des hommages en F1, quoi, c'est magnifique. Ouais.
Alors messieurs, moi je vous dis tout de suite, c'est Villeneuve, hein, parce que c'est Villeneuve.
Ouais, ouais.
Voilà.
Ouais,
non, moi c'est la première avec le chinois chez HRT.
Bah,
c'est vrai que Villeneuve, on s'en fout, surtout que en plus Villeneuve dans la Ferrari de son père, ça a déjà été fait à Goodwood il y a 2-3 ans.
Ouais,
donc c'est pas une grande première. Maintenant, c'est vrai que bon, le geste est sympa. Moi, ce que j'aurais trouvé encore plus sympa, c'est que si je m'abuse, j'avais regardé à l'époque dans le calendrier, l'anniversaire correspondra à peu près avec la date du Grand Prix du Canada. Donc moi, j'aurais trouvé sympa, à la limite, que ce tour de Villeneuve dans une Ferrari se fasse dans ce contexte-là, plutôt qu'à Surado, où a priori personne va voir, enfin personne, voilà. J'aurais trouvé plus sympa de faire ça pendant le Grand Prix du Canada, parce que ça a été fait pour Senna avec Bruno dans une Lotus, je crois, à l'époque, donc j'aurais trouvé ça plus sympa, mais bon. Donc moi, c'est le chinois.
Donc on a un chinois de Villeneuve, et toi, Dino?
Moi je dirais c'est le durcissement des règles sur les échappements 2013, parce qu'on en a dit, enfin ça fait déjà 3-4 semaines qu'on nous le dit. Y a rien de nouveau, Gus Gus, qu'est-ce que t'as fait?
D'accord. Alors on va passer aux citations, messieurs.
Et cette semaine j'ai prévu du rechange, les gars, donc allez-y.
Ah tiens, moi je vais commencer. C'est un message de Fernando Alonso, et c'est bien parce que il a mis moins de 140 caractères à l'affaire, ce qui est parfaitement dans le sujet. Puisqu'il a dit, tous les messages sont les miens, les bons comme les horribles, je ne laisse personne y toucher. Car oui, la grande nouvelle de l'année, Fernando Alonso est sur Twitter.
Wouhou!
Et visiblement, c'est ses messages. Ah, c'est pour ça qu'il a voulu le préciser. C'est pour ça qu'il l'a fait. En plus, il l'a dit en moins de 140 caractères. Donc, c'est bien, il est dans le thème.
Et franchement, en plus, c'est vraiment. Alors, je dis pas ça parce que je suis fan d'Alonso. Enfin, je suis fan de Ferrari et extrêmement d'Alonso. Mais c'est vraiment un compte Twitter qui est assez intéressant à suivre parce qu'on apprend des trucs. C'est pas nombriliste. Avant les Grands Prix, par exemple, il vous donne le programme, son programme. Il a fait une photo, je crois, avant la Malaisie. Où, voilà, c'était son programme avant le Grand Prix, tout ce qu'il allait faire dans le week-end. semaine, et c'est assez intéressant. Voilà, on est un peu dans la vie du pilote. C'est mieux que certains d'autres pilotes qui disent soit qu'ils se parlent entre eux, soit ils font ah j'ai mis ça sur mon nouveau site. Ah cool, ouais.
Bah, comme on peut voir tous les Twitter des pilotes français qui est affligeant. Je viens d'atterrir en Malaisie. Je repars de Malaisie. Et c'est toutes les informations qu'on a.
Il raconte vraiment tout, mais pas passionnant, quoi.
Ah non, mais il y a rien, quoi. C'est simplement, sur un week-end, c'était Grosjean, où ça a été départ, arrivée.
En même temps, Grosjean, il connaît que les départs. Donc... Normal que ça le passionne.
Mais on peut avoir un petit peu plus de détails. Et après, dans la semaine en elle-même, c'est vide. Et en même temps, on se demande vraiment si c'est lui qui l'utilise le compte, ou si c'est simplement un compte de chez Lagardère. Mais c'est vraiment frustrant, quoi. Il y a un moyen de rapprocher. Bah là, toi, ouais, je commence vraiment à en avoir un petit peu assez des pilotes français. C'est sur le fait qu'ils ont aucune communication. Il y a Twitter qui a moyen de se rapprocher. On peut avoir des informations, se rapprocher des gens. Rien.
Il y en a plein,
mais je veux dire, mais même dans les interviews,
la question. Il est inintéressant.
Ouais, non, c'est affligeant, alors qu'on peut avoir vous avez vu l'information qui avait tourné sur le fait que les pilotes vont pouvoir tweeter de leur voiture. Au moins, j'étais content. J'ai dit, au moins, on va avoir des tweets des pilotes français.
Mais c'est un pilote NASCAR qui a fait ça.
Oui. Oui.
Qui a fait un tweet depuis sa voiture.
Keselowski. Oui.
Messieurs, vos citations?
Bah, moi, en l'occurrence, on en a fait tout un speech tout à l'heure, mais c'était la déclaration qui avait été faite par les groupes des enfants du Bahreïn sur si le Grand Prix était maintenu, quoi. C'était la Formule 1 soutient un régime qui a fait couler le sang des enfants de Bahreïn. Nous adressons l'avertissement aux organisateurs, aux sponsors et aux spectateurs. La colère monte, et cela est aussi du fait que la course est maintenue. Dans ce contexte, nous ne pouvons assurer le personnel de la F1 de sa sécurité. Nous considérons les organisateurs comme faisant partie intégrante du régime sanglant toujours en place. Et je partageais tout à fait l'avis. C'est pour cela. Là, on va pas développer. On l'a déjà développé tout à l'heure, mais. Ça reste une chose que je trouve normale, quoi. Et par rapport à l'année dernière, là, il montre bien que encore plus si le Grand Prix vient, il y aura quand même des actions qui seront menées.
Et déjà l'an dernier, il y en avait. Il y avait le risque.
Des menaces. Ouais.
Le truc, c'est que l'an dernier, c'était tellement, tellement frais, tellement chaud, et puis la situation était quand même bien plus grave qu'aujourd'hui. On y avait des doutes sur le fait que le Grand Prix allait être annulé, et puis ça n'a pas tardé à être annulé. On avait déjà commencé à entendre le discours au fur et à mesure de l'année, comme quoi, s'il y avait un Grand Prix, si le Grand Prix était simplement décalé, qu'il avait lieu en octobre ou novembre, il y aurait des manifestations. Et là, ils avaient déjà prévenu depuis plusieurs mois.
Une citation
peut pas se dire surprise.
Moi j'avais celle de Barrichello qui m'a bien fait rire, mais on en a déjà beaucoup parlé. Non, moi c'est une que j'ai lu, c'était Grosjean qui revenait sur ces deux accidents et qui disait qu'il n'avait pas fait n'importe quoi et que en gros quand c'était pas sa faute, c'était pas sa faute, quoi.
Il a aussi dit qu'il visait la première ligne en Chine.
Oui, ça m'a bien fait rire aussi. Enfin, ceci dit, la voiture est performante, ils vont l'améliorer, mais la première ligne, je ne suis pas sûr que ce soit forcément jouable. Ceci dit, en qualification, il a fait de très bonnes choses. En course, il n'a pas encore eu l'occasion de montrer quoi que ce soit.
Qu'il finisse d'abord.
Non, moi, ce qui m'avait dérangé dans l'attitude de Grosjean, c'est son côté, c'est pas ma faute.
Mais il le faisait
déjà. Parce que quand faire des erreurs, c'est une chose. Maintenant, faut pouvoir avancer avec ses erreurs. Et si on part du principe que c'est pas sa faute et que donc on n'a rien à se reprocher, on peut pas avancer. Et voilà. Sur l'Australie, il laisse peut-être un peu trop la porte ouverte. En Malaisie, il perd la voiture parce que il se retrouve dans le paquet et que voilà, c'est peut-être pas forcément sa faute s'il perd la voiture. J'avais été dérangé par le fait qu'il accuse Schumacher d'avoir causé sa sortie.
Il y a un vrai contraste par rapport à Vergne, par exemple, qui a pas hésité à se remettre en cause.
Oui, mais voilà, mais Grosjean, c'est même pas par rapport à lui personnellement. Je suis persuadé qu'il peut faire des belles courses mais c'est vrai qu'on a l'impression, moi je me souviens quand il est arrivé en 2009, j'avais l'image d'un pilote qui était capable d'être très rapide, mais qui était capable de sortir dans le mur, il pouvait faire une très belle course,
très rapidement dans le mur.
Oui, et ici, l'an passé en GP2, on a eu l'impression qu'il avait mûri, qu'il avait pris un peu de la bouteille, qu'il était plus mature. Et ici, sur les premières courses, il n'a pas encore eu l'occasion de le montrer. Et dans ses déclarations après Malaisie, j'avais trouvé que c'était pas particulièrement constructif. Maintenant, il peut faire que mieux en Chine, donc je suis persuadé qu'il a les capacités pour le faire. Donc voilà.
Sinon, ça serait une double citation d'Adrian Newey, qui a été ordonné officier de l'ordre de l'Empire britannique, et qui a déclaré ceci. Alors d'abord, il a dit « À l'heure actuelle, elle est sur la table de la cuisine, mais elle rejoindra très bientôt les deux médailles que mon grand-père avait reçues au cours de la Deuxième Guerre mondiale. » Voilà. Et il y avait surtout, moi, vraiment la citation qui me fait le plus rire. Il nous raconte un petit peu comment, parce que c'est la reine qui lui a donné, et il nous raconte un peu comment ça s'est passé, et il nous dit « C'est une femme remarquable. Nous avons brièvement discuté, et elle savait que je travaillais dans le sport automobile. » Heureusement, puisqu'elle vient quand même de l'honorer membre de l'ordre britannique, enfin quand même. Je lui ai dit que j'avais déjà eu l'honneur de la rencontrer lorsqu'elle avait inauguré l'usine de McLaren en compagnie du prince Philippe. Elle s'en souvenait, et elle m'a rappelé que j'avais essayé de la faire monter dans une voiture. Voilà, moi, j'aurais bien voulu être là, quoi.
Donc honoré à juste titre, quand même. Mais il n'est pas encore sœur. Il n'est pas encore comme Frank Williams ni Jackie Stewart. C'est bien, il pourra mettre OBE sur ses cartes de visite. Voilà. C'est tout pour l'actu, messieurs. On va passer à la deuxième partie du quiz.
Et ouais.
Rappelons qu'on est donc le score, c'est 10 à 5. Wouhou ! Vas-y, redis-le. Dis-le, Dino.
10 à 5.
Oui, mais un grand philosophe que Dino ne reniera pas a dit un jour, c'est en novembre que ça compte.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Et si les gens peuvent prendre de l'avance en mars et avril, ça ne vous dérange pas. Messieurs, nous vous rappelons, vous avez 5 minutes pour répondre à une question. Et cette semaine, on a fait facile, je suis
Vas-y, mets-nous la pression, vas-y.
C'est trouvable.
Donc, attention, messieurs, êtes-vous prêts?
Oui.
Oui.
La question est la suivante. Qui sera le 12e, mais espère bien être le premier?
Est-ce un pilote de Formule 1?
Oui.
Oui.
Ancien pilote de Formule 1?
Oui.
Oui.
A-t-il été pilote de Formule 1, dans les années 90?
Oui.
Oui.
Donc 12e. A-t-il été champion du monde?
Non.
Non.
12e, mais qui voudrait être le premier?
A-t-il couru dans une équipe de top team?
Oui. Oui.
Est-ce qu'il a remporté des grands prix?
Oui.
Oui.
Ah non.
Il n'a jamais remporté.
Non.
Il n'a pas remporté des grands prix. On est bien d'accord.
C'est vrai. Non.
Donc il a remporté un. Il a remporté un grand prix.
Ah, il a remporté un grand prix.
Oui.
Olivier Panis?
Non.
Non.
Yarno Trulli?
Non.
On va tous les faire.
Donc
il refait la liste de sa chronique.
Panis n'est pas dans ma chronique.
Ouais, oui, c'est vrai.
Tu vois que tu l'as pas lu.
Ah, je fais griller.
On va te retirer de l'argent sur ton salaire.
Je rappelle la question. Qui sera 12e, mais espère bien être le premier? On attend bien évidemment une explication complète de cette phrase.
Qui fut le 12e?
3 minutes à peu près, 3 minutes 15.
C'est un truc de... Attends, on dirait une énigme du père Fouras.
C'est d'ailleurs le père Fouras qui nous a appelé pour nous donner cette question.
Qui sera?
Donc, ouais, c'est un pilote donc, ouais, qui est le 12e qui voulait finir premier. Donc, est-ce qu'il a... Attends, j'ai le... A-t-il fini sa carrière chez Ferrari?
Non.
Non.
Il roule plus, hein?
Oh, il roule encore.
Oui, mais il ne roule plus en Formule 1.
Ah non, non.
Ah non.
Il ne roule plus en Formule 1. C'est Jean Alési.
C'est Jean Alési, tout à fait.
Oui.
Et donc?
Et ça a un rapport avec sa participation aux 500 miles?
Oui.
Donc c'est le 12e.
Il sera le 12e français à participer. Il espère bien être le premier à le gagner?
Non.
Il sera le
12e. C'est pas mal comme réponse quand même.
C'est très proche.
Oui, donc c'est le 12e européen à participer. Il voudrait être le premier à le remporter?
Non.
Non.
C'est le 12e pilote de Formule 1 à participer aux 500 miles, il aimerait l'emporter.
Ah, on se rapproche un peu plus, mais non. Oui.
C'est le premier, c'est le 12e collectionneur de gravier à participer aux 500 miles.
C'est le 12e,
c'est en rapport avec son
C'est
âge.
Le 12e pilote Ferrari, c'est le 12e pilote Ferrari à participer aux 500 miles d'Indianapolis, il aimerait être le premier.
Alors, ça n'a aucun rapport avec son âge, même si son âge est vénérable, et ça n'a aucun rapport avec Ferrari.
Donc c'est le 12e de quelque chose.
Mais vous êtes c'est de cet ordre d'idée là.
Voilà, c'est vraiment de cet ordre d'idée.
Mais il y a un mot.
Voilà,
ah, tu peux nous donner le point quoi.
Alors, sincèrement, ce que je vais vous dire, c'est que là, sincèrement, on vous donne un point, mais on vous donnera un deuxième point si vraiment vous complétez bien ce qu'il y a derrière quoi. C'est
pas n'importe quel 12e qu'il est.
C'est pas par sa nationalité, c'est pas le 12e pilote F1.
C'est le 12e pilote de F1, mais c'est pas n'importe quel pilote de F1.
Bah oui, mais c'est le 12e pilote Ferrari.
Pilote de F1 français.
Non, non.
Puis de F1.
Pilote de F1 à avoir remporté une course.
Par le passé, il y a eu Nigel Mansell, il y a eu Christian Fittipaldi, Mario Andretti, Michael Andretti, Roberto Moreno, Justin Wilson, Robert Doornbos.
C'est le 12e.
Avant Alesi, il y a eu pas mal de pilotes de F1. Mais ils n'étaient pas n'importe où.
C'est le 12e pilote de F1 à courir dans l'équipe pour laquelle il va rouler.
Bravo, allez, on l'accorde.
Ouais, là, parce que.
C'est le 12e pilote de Formule 1 qui va rouler pour l'équipe Newman Haas.
Voilà.
La fameuse équipe Newman Haas. Et ça sera c'est celui qui va espérer remporter, être le premier à remporter les 500 miles pour Newman Haas.
Pour Newman Haas. Newman Haas
n'a jamais remporté les 500 miles d'Annapolis. C'est l'occasion pour nous, donc on vous donne 2 points, hein, ça fait 10. À 7, messieurs, bravo!
Yes!
J'ai
bravo.
Pas perdu!
Vous remontez!
Enfin, j'ai trouvé la réponse quand même, Steph. Quoi.
Ah ouais? Non, c'est... non. Attends, t'as trouvé la réponse? J'ai quand même été sur le 12e pilote. Non, on l'a été vraiment complémentaire.
Vous étiez vraiment super prêts. Hein.
Oui. Après, on chipotait, mais voilà. Ouais. Donc, c'est l'occasion un peu de revenir sur cette équipe Newman Haas. Équipe de Champ Car et de Kart en général.
Voilà.
On va pas non plus rentrer dans la polémique des noms parce que ça devient très vite compliqué et chiant. voilà, revenir un peu sur l'histoire de cette équipe qui a de gros liens avec la F1 malgré tout. Voilà. Alors, Carl, la Newman Haas, hein, c'est d'abord c'est l'équipe de Carl Haas qui débute la compétition en 1952 avec succès avant de se concentrer dans les années 60 sur ses activités de propriétaire et sur ses affaires. Dans les années 70, il va engager des équipes en Formule 5000 ou encore en Can-Am Series où il va notamment faire rouler des pilotes de Formule 1 comme Peter Ebsen ou Jackie Stewart. Et donc dans Newman Haas, il y a certes Haas, mais il y a aussi Newman. Et donc la partie Newman, c'est pour Paul Newman hein, qui va découvrir, qui va vivre ses premières émotions au volant d'une voiture de course en tant que comédien, puisque c'est à l'occasion de la préparation du film Virage qu'il va donc prendre le volant d'une voiture de course pour apprendre tout simplement et s'investir dans son rôle. Et donc, après avoir participé à sa première course en 1972, finir deuxième aux 24 heures du Mans 79 au volant d'une Porsche 935. Que tu as sans doute dû voir rouler, Steph, quoi. il va participer au championnat Transam jusque dans les années 90, remportant même sa catégorie aux 24 heures de Daytona en 1995, à l'âge ô combien vénérable de 70 ans, la preuve que même Mika Salo ou Jean Alesi ont leur chance. C'est possible, c'est faisable, c'est réalisable. Alors, il est également propriétaire d'une écurie en Can-Am dans les années 70, et c'est en 82 qu'il envisage de monter une écurie dans le championnat kart de monoplace nord-américaine, avec Carl Haas comme partenaire et Mario Andretti comme pilote. Parce qu'en effet, la particularité de Carl Haas, de cette écurie à Newman Haas, c'est que tout au long de son histoire, elle a dû avoir 17 ou 18 pilotes. Il y a eu 12 pilotes qui ont fait ou feront plus tard la Formule 1, qui ont roulé pour elle. Voilà. Alors, au total, hein, la Newman Haas Racing, c'est 109 pole positions dans le championnat kart, c'est 107 victoires et 8 titres. Alors, le premier, il est acquis en 84 par Mario Andretti, qui est alors le seul pilote de l'équipe. Suivra ensuite Michael Andretti, qui fera équipe avec son père chez Newman Haas en 91. Puis Nigel Mansell en 93. Alors, Nigel Mansell, hein, c'est la grande aventure hein, du kart, rappelons-nous. Il s'est titré en 92, que bon, il se fâche un peu avec Frank Williams, notamment à cause de l'arrivée, des conditions surtout de l'arrivée d'Alain Prost dans l'équipe en 93. Et donc, il décide de partir en Amérique du Nord. Dans le championnat kart, et dès la première course à Surfers Paradise, il fait sensation en signant la pole position et la victoire. Ce coquin rookie, parce que lui a le titre officiel de rookie, l'avait fait auparavant. Il mène la course d'Indy 500, mais rate la dernière relance et abandonne la victoire à Emerson Fittipaldi, qui je crois a remporté 2 fois l'Indy 500, mais va se consoler cette saison-là avec 5 victoires au total, et bien évidemment le titre de champion en fin de saison, qui fait de lui le seul pilote à devenir coup sur coup champion dans les 2 disciplines. Bravo Nigel. Bon, la saison suivante est moins brillante sportivement et surtout humainement, puisque bon, il a un peu un caractère de cochon, Nigel Mansell.
Bah, c'est Mansell.
Donc, il va pas se faire que des amis, et notamment Mario Andretti, hein, qui je crois à l'époque est son coéquipier. Mario Andretti qui va dire je suppose que si Ronnie Peterson est le meilleur équipier que j'ai eu, je crois que c'est à l'époque de Lotus en F1, Nigel Mansell aura été le pire. J'ai beaucoup de respect pour le pilote, mais pas pour l'homme. Voilà, bon. Salut Nigel, si tu nous écoutes, on pense à toi. Alors, ensuite, Newman Haas Racing va remporter un 4e titre en 2002 avec Cristiano D'Amata, qui ira en Formule 1 la saison suivante chez Toyota. Et alors que le championnat kart va subir la concurrence de plus en plus grande de l'IRL, qui est, bon, c'est en 96 que l'IRL se distingue. Au début du championnat, je crois, il y a que trois courses, l'Indy 500 et deux autres courses montées à la va-vite en 96. Puis peu à peu, en fait, l'IRL, parce qu'il y a l'Indy 500, va attirer de plus en plus de pilotes et d'équipes, même les constructeurs, qui vont passer du kart, ce qui reste le kart à l'époque, vers l'IRL. Et il se trouve que la Newman Haas Racing est la grande équipe qui va rester fidèle au championnat, qui à partir de 2003 prend le nom de Champ Car. Et là, sous l'ère Champ Car, tout simplement, il remporte 4 titres par un certain Sébastien Bourdais, qui va être champion entre 2004 et 2007. Alors cependant, en 2008, Champ Car et IRL font fusion. Enfin, c'est plutôt l'IRL qui absorbe le Champ Car. Et Newman Haas a un peu de mal à s'en remettre, à s'intégrer. C'est toujours un peu compliqué. Par-dessus ça, va y avoir la mort de Paul Newman, qui intervient à la fin 2008, et l'écurie va la suivre en fait en 2011. Fin 2011, l'écurie annonce qu'ils ne font pas la saison complète avant d'officialiser.
C'était ça qui est étonnant, c'est que en 2011, on apprend que l'écurie ferme.
Voilà.
Donc on se disait bon bah l'histoire est terminée, et bah non.
Ils vont revenir avec Jean Alési. Alors j'ai un peu cité les noms des pilotes. Hein. Il y a donc 12 pilotes avec Jean Alési qui ont roulé pour Newman Haas Racing, 12 pilotes de F1. Parmi ceux que je n'ai pas déjà cités, on compte Alan Jones qui a remplacé occasionnellement Mario Andretti en 85. Il y a Théo Fabi qui va remplacer Mario Andretti lors de la course de Détroit en 92. Théo Fabi, c'était un pilote Benetton, je crois même qu'il avait réalisé une pole position. Il y a Christian Fittipaldi de 96 à 2002. Il y a Roberto Moreno, également pilote Benetton. Je crois que c'était à l'époque de Nelson Piquet, à la fin des années 80 aussi, qui va remplacer occasionnellement Fittipaldi entre 97 et 99. Il y a Justin Wilson, plus récemment, ancien pilote Minardi. Jaguar, je crois, non ? Il n'avait pas roulé pour Jaguar ?
Ah si, si, c'est oui. avec Weber, ouais. Si.
Et Robert Dondebos en 2009, et donc bientôt Jean Alési. Et il y a un autre lien qui existe entre Newman Haas Racing et la Formule 1, et c'est via le Team Haas, qui a participé au championnat du monde en 85 et 86, et au sein duquel justement Alan Jones avait fait son retour en 85. Mais ça, c'est une autre histoire qui fera peut-être l'objet d'un autre quiz.
Messieurs, voici le répondeur.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question ? Nous y répondons.
Alors, Dino, avons-nous eu des questions sur notre répondeur ?
Oui, avec une première question, je vous laisse découvrir l'auteur. Vous allez voir, vous allez être ému.
Oh !
Bonjour, chers collègues. Je vous suis chaque semaine puisque je suis régulièrement parmi vous. J'apprécie donc beaucoup ce que vous faites et encore plus ce que je fais.
T'aurais pu au moins faire pour de faux quand même.
C'est pas moi, c'est pour rien.
Non, moi je sais qui c'est.
Ma question fait suite à la chronique Pit Stop de Ben. Oh tiens, justement, Ben. Oh. De ce lundi sur les absents de 2012. Je n'ai pas été très tendre avec cette chronique dans les commentaires pour seulement quelques phrases que j'ai trouvées maladroites, alors même que je l'ai trouvée intéressante dans la mesure où elle pose les bases à une question ouverte qui peut être le prélude à un joli débat. Cette question, je vous la pose donc aujourd'hui. Selon vous, quels sont les deux meilleurs pilotes en dehors de ceux qui ont un engagement en F1, titulaire, troisième pilote, pilote d'essai, signé Ben ?
Gus.
Merci Gus pour ta question.
Eh bien, Gus pour...
Oh ta merde.
Voilà, non. Je me permettrai de ne pas répondre à ta question, puisque tu as été très méchant avec moi sur les commentaires, voilà.
Faut pas énerver les Belges.
Non, mais c'était quoi sa question déjà ?
C'est quels sont, en dehors de la F1, les deux meilleurs pilotes ?
Bah, quels sont les pilotes qui n'ont pas d'engagement aujourd'hui en Formule 1 et qui sont les deux meilleurs ?
Ah, ben, je pense, quand il dit pas d'engagement, c'est des pilotes de F1, mais sans engagement.
T'as tout à fait compris le sens de cette question, chez
D'accord. Non, parce que des super bons pilotes en dehors de la F1, enfin, c'est pas compliqué.
Oui.
Tu comprends?
Après, c'est-à-dire que, après, en dehors de la F1, le truc, c'est que c'est difficile de comparer, par exemple, Loeb à Yvan Muller, à Christensen, voilà, c'est quand même assez compliqué.
Donc, parmi les pilotes de F1 sans engagement, quels sont les deux meilleurs?
Ouais.
Ce qui est déjà Liuzzi et Heidfeld.
Ce qui est déjà comme question est relativement pourri parce que automatiquement, normalement,
s'ils sont pas là,
c'est que pas les meilleurs. Donc toi, tu dirais Liuzzi et Heidfeld.
Non, mais c'est pourri évidemment. Non, dans ceux que j'ai cités dans ma chronique, je mettrais qui je mettrais. Si je mets d'Ambrosio, on va dire que je prêche
pour
ma paroisse. Ouais, mais il roule pas au Grand Prix.
Oui, mais il a un engagement.
Les 10 sans engagement.
Les 10 sans engagement. Moi, j'avais pensé à Edgar Ferrari, mais il est pilote d'essai chez Pirelli. Donc, faut pas te dire quoi. J'avais pensé à Buemi. Mais
bon, ah, on peut pas mettre Buemi, bah ouais.
Oui, bah alors, dans ce que j'ai cité, Liuzzi et Heidfeld, alors il n'y a plus que.
Non, parce que Liuzzi, il est encore pilote de réserve chez HRC. Sur le site, il est indiqué.
Bon, bah, ce Till et Heidfeld.
Till, ça marche.
Heidfeld, bah,
Heidfeld, ok. Moi, je dirais pareil, hein, Sutil et Edfeld, hein, puisque sans engagement, forcément, ça limite. Hein.
Moi, je dirais Sutil et Bourdais.
Mmh. Ouais, c'est vrai que Bourdais, il a fait vachement bien en Formule 1. Quand
mais c'est justement.
Il n'a pas été aidé.
Il n'a pas été aidé.
Voilà, je pense que c'est sincèrement, pour moi, c'est un super pilote qui n'est pas tombé au bon moment en Formule 1, qui n'a pas eu sa chance au bon moment. Bon, après, c'est le destin.
Il n'était pas dans la bonne
équipe. Je pense que c'est un super pilote qui pourrait prétendre à la F1. Enfin, il fait de la monoplace. Donc, voilà, on pourra même aller taper si on veut dans la monoplace. Les mecs sont éligibles. Puisque là, quand même, monoplace nord-américaine, ça a du sens. Mais oui, c'est vraiment un mec que j'aurais aimé mieux voir en Formule 1.
Steph, non, t'as pas d'idée?
Non, pas. Non, je suis vrai, Dino.
Pareil.
Ouais. Non, c'est clair, ça a toujours été un manque, quoi, que Bourdais, sa première apparition a été stoppée du fait de la non-entente entre Briatore et son père, qui avait pas vraiment apprécié le fait que Briatore vienne taper et se servir sur le contrat de Sébastien Bourdais.
C'est pas
et,
le genre de Flavio.
Non, à peine de réclamer 15%. il l'assumait après, hein, mais de réclamer 15%, c'était une chose qui était pas tolérable. C'est vrai que ça l'a cassé pour la F1, et après son retour chez Toro Rosso, c'est quelque chose, ouais. Voilà, et derrière, il a eu aussi quelques coups de malchance et qui l'ont pas aidé. Mais
chez Toro Rosso, son gros défaut, c'était de pas être un pilote Red Bull.
Ouais,
parce
ouais.
que c'est Berger qui l'a amené, et il faisait pas partie des plans de l'équipe. L'équipe Toro Rosso, ça a toujours été, l'objectif a toujours été de faire venir des jeunes pilotes Red Bull.
On voit même chez Red Bull avec Weber, quoi.
Ouais, tout à fait.
On sent très bien que c'est la pièce rapportée, quoi. Donc, lui-même le sait, lui-même le dit. Donc.
Dino, une autre question?
Mais non, mais moi, j'aurais bien voulu justement savoir, maintenant, si on prend en dehors des pilotes de F1, ou qu'on fait de la F1, quels sont aujourd'hui, pour vous, les pilotes qui vous impressionnent le plus,
En dehors de la F1?
Ouais.
En dehors de la F1.
Les mecs vous disent, tiens, ça aurait été bien de le voir en Formule 1, de voir ce qu'il aurait pu donner en Formule 1, tellement il vous épate en dehors.
En restant dans le sport auto.
Voilà, en dehors de l'OB, par exemple.
Voilà. Christensen, quand même.
Ah ouais. Ouais, moi, Christensen, c'est celui-là qui. Il aime tellement pour l'avoir vu rouler au Mans et vraiment moi, l'impression que c'est.
Tu mets dans une F1 au Mans, il gagne.
un autre, un Français, c'est Yvan Muller. J'aurais vraiment voulu voir ce qu'il aurait pu donner.
Yvan Muller.
Muller, je peux pas.
Moi, je l'ai encore vu en interview dans une émission sportive à la télé pour le WTCC, tout fier d'avoir gagné une course où il y a qu'un seul constructeur engagé. Ah non, je peux pas.
Sinon, dans un autre style, Kyle Busch.
Ah oui, alors là, dans le genre de NASCAR.
Parce que je me disais, ouais, pourquoi pas un pilote NASCAR? Quel pilote NASCAR? Mais oui, Kyle Busch.
Bah oui,
Danica Patrick en NASCAR.
Ah, mais Kyle Busch, ça serait quelque chose.
Mais Kyle Busch, ouais, c'est-à-dire que Kyle Busch à côté, il fait passer le doigt d'honneur de Vettel pour.
Kyle Busch. Gentillesse, hein.
Non, mais Kyle Busch, il fait des doigts d'honneur au public. Il fait pas des doigts d'honneur à General Karting Client, il fait des doigts d'honneur au public. C'est pas pareil. Stewart pourrait le faire. Parce que...
Et on sait qu'il peut rentrer dans une McLaren. Donc
voilà,
c'est
ce qui est quand même la révélation du siècle. Quand même, c'est... Jimmy Johnson. Alors là, pour ceux qui. Moi, sincèrement, Jimmy Johnson. En même temps, je me dis, j'aimerais bien le voir en F1. Mais
c'est chiant!
Mais ça serait super chiant!
Ça serait chiant!
Parce que c'est le Schumacher du NASCAR.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Jimmy Johnson, c'est comme Nico Rosberg. Hein. Le jour où il se laisse pousser la barbe, waouh, il devient rebelle!
Oui. C'est une transformation surprenante.
Voilà.
Et en IndyCar, moi en IndyCar, je mettrais Frank Kitty. Et il y en a un qui fait un super début de saison, là, c'est Pagenaud. Même au Mans, il était pas mal, Pagenaud. Et c'est un peu le pilote français qui est passé inaperçu, même de nous. Hein, c'est-à-dire que Pagenaud, on l'a jamais vraiment cité en Formule 1, parce que je pense que très rapidement, il a compris qu'il pouvait pas y aller, donc il s'est orienté vers d'autres trucs. Et là, il fait apparemment un super début de saison en IndyCar.
Mm-hmm. Et attends, on a aussi l'autre mince. Ah oh, purée, j'avais oublié son nom. Le jeune qui est arrivé en Indy Light, le jeune français.
Ah, qui a gagné carton, la Barber, je crois.
Oui, qui a gagné à Barber. Il a fait la pole, il a fait la totale. Oh non, purée, j'ai oublié son prénom.
C'est pas Tristan Vautier.
Voilà.
Ah, par contre, c'est pas ça. À Barber, c'est à Saint-Pétersbourg qu'il a cartonné.
C'est la première course.
Okay. Et là, la prochaine course, c'est Barber, c'est ça.
Non, Barber, c'est déjà passé.
Déjà des disputés, ouais. Voilà. Ça, je sais quand même, tu vois.
Le mec qui la ramène.
Il a le calendrier sous les yeux.
Ah, bah la culture, c'est comme la confiture. Hein.
Moi, on a plus l'étal. On passe à la question suivante.
Oui.
Alors, c'est une question que nous avons reçue de Thomas qui nous dit:
d'accord.
Salut à toute l'équipe et merci pour votre émission. Puisque vous nous donnez la parole, j'en profite. Depuis 2004, la F1 se rend en Chine. Mais en dehors de ce Grand Prix, comment la Chine s'implique-t-elle en F1 ? A-t-elle des pilotes, des sponsors ou encore des parts dans des équipes ? Merci à vous de votre réponse et bonne émission.
Eh bien,
Yotung Tung, merci. Alors,
attendez. Il a préparé.
J'ai préparé. Alors, en voilà. Effet, le Grand Prix de Chine est là quand même depuis 2004. Il est venu en grande pompe. Hein. Les frais de construction se sont élevés à 450 millions de dollars. Donc, on aurait pu imaginer une offensive de la Chine sur le terrain du sport auto et notamment de la F1, comme on a pu le voir par exemple dans le domaine des Jeux Olympiques. Hein, où on a bien vu à Pékin, ils avaient tout donné pour être au top. Et c'est vrai que finalement, la Chine se fait plutôt discrète, hein, au niveau, en tout cas de la F1.
Parce qu'ils sont 1,5 milliard, quand même.
Alors qu'ils sont 1,5 milliard. Donc,
s'il n'y a pas un champion du monde potentiel là-dedans, voilà.
Voilà. Finalement, la place la plus importante de la Chine actuellement en F1, c'est justement le Grand Prix. Puisque en termes de pilotes, il y a deux noms, à citer. Il y a Yuping Tung, qui a été pendant 2 ans, alors même pas 3e pilote, même pas 4e, mais limite 5e.
5e chez Lotus.
9e pilote chez Renault Pilotus. C'est-à-dire que, en effet, c'est le premier chinois à avoir piloté une F1, mais que dans des roadshows. Yuping Tung, qui a fait du GP2, notamment en 2007 et 2008, hein, où bon, il s'est classé entre la 18e et la 24e place, hein, ça n'a pas forcément été très brillant, qui a fait de la Super League Formula. Oh. Vous voyez un peu le niveau? Hein. Et donc il y a ce deuxième nom, ce fameux King Yua Ma, donc qui a été annoncé chez HRT. Alors qui lui c'est pareil, hein, il est pas 3e pilote ni 4e, il est juste dans le programme de développement des pilotes. Oui. C'est-à-dire que si HRT survit assez d'années, peut-être que d'ici 4-5 ans, il aura la chance de rouler dedans.
Bon courage.
Bon courage. Donc King Yua Ma, lui, alors il est passé notamment par là un Grand Prix en faisant 2 courses. Oui, il y a des pilotes qui font la 1 Grand Prix.
Piquet a fait la 1 Grand Prix.
T'es condescendant comme ça. Bon, d'accord, c'est peut-être justifié, mais quand même.
Sinon, en 2011, il était en China Touring Car Championship, hein, donc un championnat de tourisme chinois. Donc voilà, actuellement, il est le représentant de sa nation, hein, de son 1,5 milliard. Oh, c'est un bon ratio, 1 pour 1,5 milliard.
Ça va?
Ça va, hein. Alors à noter, hein, si jamais on a des, peut-être l'arrivée de futurs Chinois, hein, en F1, celui qui est peut-être le plus proche, c'est David Zhou. Alors oui, je sais, David, c'est pas du tout un nom chinois, mais il s'appelle quand même David Zhou. Hein.
En fait, c'est le truc, hein, c'est que la plupart des pilotes chinois qui font leur apparition, ce sont des pilotes finalement très européens.
Puisque Yuping Tung a la double nationalité néerlandaise.
Voilà.
Voilà. Donc David Zhou qui est actuellement en Formule 2 cette année.
Allez Zhou.
Voilà, donc c'est lui qui est peut-être le plus proche parmi les Chinois pour accéder à la F1. Alors en ce qui concerne les équipes, alors tu parlais, c'est qui a posé la question ?
Thomas.
Thomas, est-ce que les sociétés chinoises notamment ont des parts ? Actuellement non, hein, c'est plutôt les Bahreïniens et les Qataris qui s'offrent des parts d'équipes de Formule 1. Hein. Il y a quand même quelques sponsors. Alors le plus important, et là encore on voit paradoxalement, alors que c'est quand même une économie, j'ai même plus envie de dire émergente, parce que ça fait longtemps qu'elle a émergé, l'économie chinoise. Le sponsor le plus important, c'est Lenovo, hein, ouais. le fabricant d'ordinateurs qui est sponsor de chez McLaren.
Et qui était avant sponsor titre de chez... enfin, c'est un gros sponsor
alors,
de chez Williams.
Gros sponsor de chez Williams. McLaren, qui jusqu'à l'an dernier aussi avait le sponsor Aygo. Souvenez-vous, c'était sur le côté des voitures, entre l'entrée d'air et les roues,
il y
avait
Aygo.
Il y avait Aigo avec des caractères en chinois, en fait. C'est un fabricant de produits électroniques comme des baladeurs, MP3 par exemple. Mais apparemment, cette année, ils ne sont plus sponsors parce qu'on ne le voit plus sur les voitures et même sur le site McLaren. Ils ne sont plus indiqués hein, comme partenaires. Autre sponsor assez important, c'est chez Lotus, c'est Trina Solar, le fabricant de panneaux solaires, qui est chinois. Et donc, bah, finalement, c'est les seuls. Il n'y a pas, même au niveau des partenaires techniques, il n'y a pas plus d'importance que ça de la Chine, pour l'instant, en F1. Il n'y a même pas... Alors, c'est qu'en WRC, il y a Demac, hein, qui est fournisseur officiel hein, de pneus, même si personne ne les prend. Parce que bizarrement, tout le monde préfère prendre des Pirelli. Mais voilà, faut savoir, la Chine est présente un peu en WRC, mais en F1, finalement, c'est assez faible. Alors peut-être qu'un jour, on verra une écurie chinoise. Hein. Si jamais ils s'y mettent, c'est peut-être la façon qu'ils le prendront, soit en rachetant une écurie, soit en prenant des parts dans une écurie. Mais c'est vrai que pour l'instant, les marques chinoises sont encore très centrées sur le marché chinois. Même si on a vu par exemple qu'elles ont essayé plusieurs fois, elles ont tenté d'importer des véhicules en Europe.
Non, mais vu l'effort que fait la Chine pour le développement des véhicules électriques, ils ont vraiment des grands pôles d'activité en recherche sur l'innovation, ouais, véhicules, batteries et autres. Ça m'étonnerait pas que si un jour ou l'autre l'F1 venait à dériver plus sur on va dire les moteurs électriques, qu'on voie apparaître la Chine. Eux, c'est
même
vraiment
en termes de qualité des voitures, hein. On a souvent plaisanté avec les marques qui étaient des copies conformes de voitures européennes, sauf qu'on commence à voir d'abord que la qualité des voitures s'améliore grandement et qu'en plus, ils commencent à avoir des gammes personnalisées, enfin des vraies gammes à eux, à commencer à se trouver le style, etc.
Donc, bah, pour l'instant, la place de la Chine est assez faible en F1, mais ça peut changer, vraiment ça peut changer. Alors Dino, est-ce qu'on a une autre question?
Non.
Alors si vous avez, si vous souhaitez poser des questions au SAV, donc via le répondeur, Dino, quelle est l'adresse à utiliser?
Répondeur@savf1.fr.
Donc c'est tout pour le répondeur, Dino, mais est-ce qu'on a encore une actu, une interrogation, un questionnement?
Comme à chaque mag, nous avons un questionnement profond. Rappelez-vous, en début de saison, on se demandait quel super-héros on aimerait voir dans une Formule 1. On s'est aussi demandé quel sponsor insolite on aurait aimé voir aussi en Formule 1. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions imaginé l'équipe des Coco Pagnoc et les Sissi Punama. Hein,
D'ailleurs, ça a beaucoup plu, visiblement. Oui. Donc merci. Hein.
On n'y donnera sans doute pas de suite parce que on a un petit peu grillé toutes les bonnes idées, je pense. Voilà, faudrait qu'on s'y mette sérieusement. Mais il y aura peut-être des nouvelles ou peut-être.
On va savoir.
Voilà, on verra. On vous laisse la surprise, peut-être. On verra. Et cette semaine, messieurs, je trouve que en ce moment on est trop gentil. On se fâche pas avec assez de monde. Et je me dis on a déjà commencé un petit peu pendant l'émission à se fâcher avec cette catégorie de personnes. Je me dis allons à fond. Oh, messieurs, bien. Je vous propose ce soir de faire un quart d'heure macho. C'est-à-dire, on va s'imaginer, on a parlé de la future Big Boss de Sauber, on a parlé un peu de Maria De Villota. Imaginez que ce ne soit pas des cas minoritaires, mais que ce soit la majorité. Que la F1, ce soit un sport de filles depuis 60 ans. Mais messieurs, comment imaginez-vous cette Formule 1 qui aura été conçue, imaginée, blottie par des femmes pendant 60 ans?
Déjà, il y aurait beaucoup moins de tours pour les Grands Prix puisque les voitures ne dépasseraient pas les 60 à l'heure.
Et d'ailleurs, on peut dire que pour ça ferait très longtemps qu'on aurait interdit les ravitaillements parce que pour se garer, c'est juste pas possible, quoi.
Non.
Faut rentrer dans une distance, on partirait, on ferait jusqu'au drapeau à damier et après, hop, on arrête la voiture et on demande aux hommes de venir.
Parce que ça ne serait pas très pratique puisqu'il y aurait un rétro sur le dessus pour qu'elle puisse se maquiller.
C'est vrai.
Oui, d'ailleurs, le SAV aurait une rubrique spéciale maquillage, mode, quelle est la pilote qui a les plus belles chaussures?
Oui,
le plus beau sac.
Alors que nous, on parle de palmarès et c'est tout quand même.
Ouais,
c'est ça. Qui a les plus belles boucles d'oreilles? Ah, mais ceci dit, ça, on peut déjà le faire. C'est Lewis Hamilton.
On aurait des pit boys. Qui aurait des tenues moulantes en bas et qui serait torse nu en haut, mais tu sais, avec des espèces de petits strings pour tétons. C'est-à-dire qu'il y aurait des. En fait, c'est des trucs, ils ne cachent que le téton. Voilà, c'est des bretelles.
Oui, c'est là que tu vois que l'égalité des sexes, c'est nul, parce que nous, les femmes, elles ne sont jamais torse nu.
Oui, non, voilà.
C'est triste, quoi, tu vois. Nous, ce serait des pit boys, on serait torse nu. Mais bon.
Bon, il convient de dire que la majorité des voitures seraient roses.
Bien sûr.
Ou fuchsia.
Et notamment sponsorisé par Hello Kitty.
Bah voilà.
T'imagines, t'aurais des F1 qui auraient la tête, qui auraient le même, les mêmes couleurs que certaines voitures de DTM.
Ah, l'horreur.
Parce qu'il y avait des DTM roses.
Et elles auraient pas de Boy.
Non, mais par contre, on aurait des rubriques sport dans Elle, Voici.
Vogue.
Ouais. Vogue.
On n'aurait pas Marion.
On aurait
Mario.
On aurait Mario.
Non, on aurait développé des pneus roses, tu vois. C'est un peu le raisonnement à la Ligue 1, tu vois, pour attirer le public féminin. Non, on aurait développé.
Non, il y aurait la gamme de Pirelli qui irait du rose au fuchsia en passant par le bleu turquoise.
Non, parce que en Ligue 1, ils ont fait un ballon rose pour attirer les femmes. En Formule 1 version 100% féminine, ils auraient fait des pneus de couleur bleu ciel pour attirer les hommes, tu vois. Une idée autant à la con qu'ils nous auraient sans doute attiré.
Mm-hmm. Ce serait Prada qui ferait les tenues. Les combinaisons.
Oui. Ah la vache. Non, mais t'imagines les équipementiers. C'est l'horreur. Mmh. Prada, Louboutin. On aurait des trous dans les carrières pour les enfants. Donc il y aurait plus de pilotes. Il y aurait plus de turnover.
C'est vrai.
Ça, c'est un truc qu'on n'a pas, nous les hommes, et qui serait vachement bien pour la F1.
Mmh. Bah ça se fait. Montoya, il est enceinte. Hein.
C'est vrai que ces derniers temps, on se demande s'il fait pas du papillon.
Non, mais on aurait pas des cours en fin de mois, par exemple, tu vois. On aurait des espacements plus grands.
Oui, c'est vrai que...
Alors, on a dit qu'on y allait à fond. Hein,
Et Bernie Ecclestone s'arrangerait pour que le calendrier de Formule 1 coïncide avec le cycle menstruel de la plupart des grandes pilotes.
Oui, mais est-ce que Bernie serait encore en... Il serait là, tu vois, c'est ça.
Non, mais qui Bernie sera toujours là. Ce sera Slavica.
Ah, ou la patronne de Vogue. La patronne de Vogue actuelle, là. Je sais plus son nom, là.
Ah, non. Elle est pas fiable.
Ah, mais si, c'est parfaitement le même style.
Ah, c'est le style, hein. C'est le, si vous avez vu le film Le Diable s'appelle
voilà,
Prada.
Voilà, tout à fait. C'est inspiré de ça, ouais.
Ah, ouais, c'est inspiré de ça. Donc, elle serait totalement dans le style de Bernie. Mm. Ensuite, ouais.
Bon, il y aurait toujours des polémiques, mais pas forcément techniques, plutôt voilà, sur les livrées. Voilà. Ah, votre livrée, elle est pas légale. Pourquoi ? Elle est trop belle. Elle va trop bien avec votre combinaison, c'est pas juste.
Il y aurait que des circuits urbains. Oui, parce que tu vas pas les envoyer à Perpète-les-Oies. Non.
Ah non,
les Grand Prix d'Italie à Milan, New York, Paris.
Voilà, les filles, ça met pas les pieds dans la gadoue.
Grand Prix sur les champs, tu sais, après le tour.
Mais oui. Avec pit stop autorisé dans tous les grands magasins. Bon, il convient de dire aussi qu'il y aurait des innovations techniques, hein, genre par exemple, les casques de Formule 1 ne seraient pas que des casques de Formule 1. Ils feraient aussi
les permanentes,
tu sais, comme chez les coiffeurs, les permanentes, les colorations aussi.
Tu pourrais mettre des bigoudis dedans, ouais. Ça serait sympa.
Un magnifique casque Louis Vuitton, avec le motif Louis Vuitton.
Ah là là. Bon, je pense qu'on a été suffisamment représentatif de tout ce qui peut se faire de pire. On est bien d'accord.
Oui.
On a été un mélange de Jean Alesi et de Vitaly Petrov. Voilà. Même si nous avons osé l'idée folle de donner des licences aux femmes de F1. Donc sur ce, je pense qu'après ce débat où on vient de perdre à peu près 3 ou 4 auditrices. Mais bon, je pense qu'elle
l'entièreté de nos auditrices en fait.
Voilà. Non mais rassurez-vous, hein, mademoiselle, justement, on va en profiter. Hein, si jamais vous voulez briser toutes ces idées reçues, venez.
Oui.
Hein, nous vous poserons exactement la même question. L'idée d'un SAV 100% fille tient toujours. Si vous voulez, on vous posera la même question et vous nous direz votre version. La version, ça se trouve, ce sera pareil. Ah ouais, on mettra
oui,
le Kitty, etc.
C'est ça.
L'horreur.
On arrive à la fin de cette émission.
Oui, peut-être petit rappel pour ta proposition.
Le concours, exactement.
On vous rappelle la question, il vous reste une semaine pour participer, à savoir jusqu'à mardi prochain, 18h. Et la question qui vous était posée par Globen, je crois, était la suivante. Quelles sont les 3 variétés de NEM les plus répandues ? Pour répondre, c'est concours@savf1.fr. On vous rappelle, vous nous donnez votre réponse, plus une question sur le Grand Prix du Bahreïn ou le vide.
Ce qui, vu l'actualité...
risque d'être plutôt le vide.
Ouais, voilà. C'est... Tu vois, quand j'avais fait le choix, j'avais pas pensé à l'annulation, et en fait, plus le temps passe, et je me dis, voilà, ça se recroise, c'est magnifique. Alors n'oubliez pas, donc, le Grand Prix de Chine, c'est ce week-end, ça sera à quelle heure, tiens, c'est le matin ?
Ouais, c'est entre 9-10, ouais, je crois. 9 heures, non ? De toute façon, demain, normalement, il y aura... Enfin, aujourd'hui, puisqu'on est diffusé demain, le mercredi, normalement, il y aura tout ça sur le site.
D'ailleurs, on rappelle que vous pouvez trouver l'émission... Où est-ce qu'on peut la trouver, l'émission ?
Sur iTunes.
Sur iTunes.
Vous pouvez nous donner 5 étoiles.
Ouais.
Puis, merci à tous ceux qui nous ont donné des, qui nous ont mis des commentaires. On a déjà eu 16 votes, je crois. Vous verrez peut-être notre nouveau logo.
Non.
Ah, j'ai dit, c'est l'événement, on a un nouveau logo. Pour le voir, c'est sur savf1.fr.
Donc surtout, bah, bonne course à tous. N'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est où? C'est sur...
FanF1.
Ouais, c'est bien. Il y en a un qui suit.
J'adore faire les
temps. Ça fait quasiment tout le temps, il y en a un qui suit. C'est... Non, pas possible.
Les deux rédacteurs sont à la masse.
Allez, ciao à tous.
Allez, salut.
Au revoir.